Allez, fabuleux. Bonsoir, bonsoir Sacha.
J'ai envie de t'appeler madame ce soir.
Mais vas-y, je t'en prie, tous les jours. Bonsoir Antoine. Ça va?
Très bien.
La pêche?
Bah ouais.
Ok. Je crois qu'on a quelqu'un qui nous rejoint là. Enfin, peut-être qu'il a changé d'avis.
Bonjour.
Ah,
non, là.
Ah, bah.
Hein? Mais on... Allô?
Où es-tu?
Ah!
Allô?
Oh!
Bonjour.
Oh non!
Comment ça
il
va?
Il a l'air tellement doux, ton pilou!
Je suis un pilou. Je, voilà, faut bien prendre soin de tout ce merdier là. Voilà.
On a grand corps malade avec
vous. C'est la crève reconductible. Ok.
La crève reconductible. Non, je voulais juste vous faire un gros bisou, vous dire que je suis désolé de pas pouvoir être avec vous ce soir, mais je suis dans la maladance. Voilà, je suis surtout désolé pour le public. Désolé les amis, j'aurais adoré vous voir ce soir et boire une bière avec vous, mais apparemment c'est mieux pour vous si on reste à distance ce soir. Donc voilà, des gros bisous. Merci à toi Léa d'avoir accepté de me remplacer au pied levé pour présenter Backseat. Bravo pour Louis Force, c'était vachement bien.
J'espère, merci.
Et voilà quoi, non mais je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne émission. Et je vous laisse entre les mains expertes de Léa et je vous dis à très bientôt.
Merci Jean. Oh bah c'était rapide. Bon bah sans transition, la réforme des retraites. Ok. Alors hop, la réforme des retraites, bon, on va parler quand même de ça un peu. Hein. Alors déjà, côté mobilisation, il y a eu une grosse manif quand même là, le mardi dernier. Apparemment 3,5 millions de manifestantes et de manifestants d'après les syndicats, 1,3 million quand même d'après le ministère de l'Intérieur.
Et 12 selon Occurrence.
Ouais, ils ont compté les gens dans la salle, c'est tout.
Eh bah c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que finalement la manifestation, la mobilisation tient.
Ah bah oui.
Clairement. Ouais, on est d'accord.
Ça tient. Quand on regarde, il y a vraiment trois fronts à l'heure actuelle. T'as le front de l'Assemblée, du Parlement, enfin pas seulement l'Assemblée, d'ailleurs le Parlement de manière générale. T'as le front de la mobilisation et on voit que les chiffres de mobilisation ils baissent pas, au contraire, ils ont plutôt tendance à
depuis
augmenter.
La première manif, 18 janvier, 17, oui, 19 janvier.
Complètement, ouais. C'est déjà il y a pas mal. De, alors je sais plus 5 ou 6 actes de mobilisation. Ouais. Et là on est quand même sur un record historique de mobilisation. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et quand tu regardes aussi le front de l'opinion, c'est toujours la même chose. C'est hyper stable dans les enquêtes d'opinion. C'est 60-70% de la population qui est opposée à la réforme et qui soutient la mobilisation et qui même demande une mobilisation qui soit plus dure. Donc il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer. C'est pas du tout la communication du gouvernement n'a pas du tout permis de faire baisser cette mobilisation.
Ouais, vous n'avez pas compris.
Ça ne fonctionne plus.
Non, bon, écoute, tant mieux. Dans un sens, affaire à suivre. Mais du coup, là, les syndicats appellent à une nouvelle manifestation samedi prochain. Les syndicats SNCF et RATP ont décidé d'annoncer une grève reconductible, contrairement à la crève reconductible de Jean Massier.
Elle est bien celle-là.
Je pense qu'ils ont dû aller chercher l'idée par là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire que finalement la France n'a pas été suffisamment bloquée? Tu disais Antoine que vraisemblablement l'opinion publique serait favorable à ce que la France soit davantage bloquée. On nous avait promis qu'elle serait à l'arrêt le 7 mars. Sacha, t'en penses quoi?
Moi, je dirais pas qu'elle a pas été suffisamment bloquée. Je dirais que la stratégie de blocage qui est voulue par certains syndicats, même Laurent Berger avait appelé à bloquer toute la France le 7 mars, voulue aussi par LFI notamment, j'ai l'impression que sa stratégie de blocage, elle prend pas. Alors, ça ne remet pas du tout en cause l'énormité
de la mobilisation,
ouais, évidemment. Sûr. Ça, c'est factuel. La mobilisation faiblit pas. Mais le fait est que le blocage, pour l'instant, j'ai pas vu de France à l'arrêt, quoi. J'ai pas vu de France à l'arrêt, comme ça a pu être le cas en 95. J'ai pas vu de rideau blessé. Donc, la question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas une forme de mobilisation autre qui permettrait au gouvernement d'entendre un peu ce qui se passe dans la rue, peut-être, et qui ne passerait pas par le blocage.
Bah justement, pour revenir un peu sur les mobilisations, tu parlais des réactions politiques, tu parlais notamment de LFI. Jean-Luc Mélenchon a appelé à une dissolution de l'Assemblée nationale ou à un référendum. Antoine, ça t'inspire quoi, toi, hein? Tu penses que stratégiquement, c'est pertinent de demander une dissolution tout de suite, là?
Déjà, juste avant la stratégie, c'est sûr que sur le point de vue démocratique, il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer. Parce que, alors peut-être que la France n'est pas à l'arrêt autant qu'en 95, mais néanmoins, on est sur une population qui rejette très massivement cette réforme. Ouais. Et surtout qui ne comprend pas, contrairement à ce qui pouvait encore exister, je pense, il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, qu'avec une opposition aussi forte au sein de la population, une réforme puisse quand même passer. Et donc, il y a quelque chose qui joue au niveau de la représentation nationale et au niveau du fait de donner le pouvoir à des élus de gérer un peu le destin collectif pendant 5 ans sans avoir de possibilité d'avoir une mainmise sur ce qui est en train de se passer. Parce que tu vois, on disait 70% des gens qui sont opposés à la réforme, mais tu en as exactement le même chiffre, 70% qui pensent que malgré tout, la réforme, elle va passer, elle va être appliquée. Donc, il y a une question démocratique qui se joue là très clairement. Est-ce qu'une dissolution, ce serait vraiment répondre au problème ? Déjà, l'Assemblée nationale, elle est davantage représentative des équilibres politiques du pays qu'en 2017.
C'est vrai.
Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et c'est plus, finalement, dans d'autres mécanismes, dans une nouvelle forme de démocratie, qu'il faudrait réfléchir à ça plutôt que d'aller vers la dissolution.
Après que Jean-Luc de Jean-Luc Mélenchon, pardon, c'est pas mon pote. demande la dissolution. Moi, j'avoue que ça m'étonne un peu parce que le rapport de force à l'Assemblée, il est clairement pas pour l'instant en faveur de LFI et de la NUPES, vu ce qui a été montré dans les débats sur la réforme des retraites pendant les deux semaines de débat là. Dans des sondages qui ont été réalisés, on a vu que Jean-Luc Mélenchon et LFI, c'était la quatrième voire la cinquième force d'opposition à la réforme des retraites, derrière les syndicats, derrière le Rassemblement national. Je ne pense pas que ce soit une stratégie très win-win pour Jean-Luc Mélenchon de demander une dissolution pour le coup, surtout qu'il n'est pas Premier ministre, ne l'oublions
pas. C'est peut-être pas très pertinent. Est-ce qu'une dissolution serait intéressante pour Macron ?
On ne sait pas trop ce qui pourrait être intéressant pour Macron, vu le bourbier dans lequel il est à l'heure actuelle. Voilà. Mais c'est compliqué à dire. Mais tu disais, ouais, effectivement, Mélenchon, la France insoumise, c'est pas eux qui bénéficient à première vue de ce qui est en train de se passer. Néanmoins, sur le moyen terme, si on reprend l'idée qu'il y a la question démocratique qui est un peu mise au centre quand même de l'attention, c'est quand même une thématique qui depuis 2012, est au centre du programme de la France insoumise. Donc je ne suis pas non plus persuadé que sur le moyen terme, ce soit une séquence qui leur soit si défavorable que ça. Après, pour Macron lui-même, dissoudre dans les circonstances actuelles, je ne suis pas certain qu'il referait les mêmes scores que ce qu'il a fait, il y a encore quelques mois. Et quand tu regardes les élections partielles même, franchement, ce n'est pas si défavorable à l'ANUPS que ça, d'ailleurs. Les résultats, ils sont plutôt en faveur de l'ANUPS. On dit que ça va favoriser le Rassemblement national.
Élections partielles. C'est difficile d'avoir une vue globale à partir d'élections partielles, parce que c'est toujours dans les contextes très particuliers, mais c'est vrai que c'est intéressant de le relever. Un élément aussi, moi, qui me semblait intéressant, c'est de voir que cette intersyndicale exceptionnelle, à laquelle personne ne s'attendait, finalement, tient. Là, ils ont adressé un courrier à Macron en disant « ce serait cool qu'on se voit, stop ». Il les a un peu laissés en vue et Elisabeth Borne a dit « non, mais vous avez qu'à envoyer un message à Dussopt ». C'est un peu ce qui s'est passé en réalité. C'est quand même ouf que ça tienne encore autant. Moi, je m'étais pas ma main coupée début janvier que ça allait tenir aussi longtemps.
Laurent Berger, je sais pas ce qui lui arrive.
Il se radicalise.
Il a pris des protes. Mais ce qui est intéressant, tu parles de front syndical et c'est vrai, il y a un vrai front syndical et ils arrivent à parler d'une seule voix. Il y a quelque chose que j'ai plutôt du mal à comprendre par contre, c'est la façon dont ils essayent absolument de vouloir distinguer ce qui se passe en termes de mobilisation syndicale et ce qui se passe en termes de mobilisation à l'Assemblée nationale et par les partis politiques. Le fait de pas vouloir être récupéré par les partis politique, ça les amène à plutôt opposer les deux formes de mobilisation. C'est Laurent Berger, encore la dernière fois sur France Inter, qui insistait sur le fait que c'est une mobilisation sociale, c'est pas une mobilisation politique, alors qu'intrinsèquement, le fait de faire grève, c'est quand même extrêmement politique. Donc c'est plutôt cette stratégie-là, le fait qu'il n'y ait pas de concordance entre l'opposition qu'on voit à l'Assemblée et l'opposition qu'on voit dans la rue, c'est plutôt ça qui m'étonne.
Je suis totalement d'accord avec Antoine. Et en plus, on a vu les syndicats, et notamment Laurent Berger et Philippe Martinez, s'en prendre très frontalement à la stratégie de
Jean-Luc, ton pote.
On l'embrasse. De la stratégie de LFI à l'Assemblée nationale. Et je pense que justement, cette distinction, ça les sert pour le coup.
Ouais, c'est clair. Autre sujet quand même, désolé, je coupe court assez rapidement parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais ça semble quand même assez important d'en parler. Bon, ça vous a pas échappé, hier, journée internationale de la femme avec les roses, tout ça, et puis sinon il y avait un vrai truc sérieux qui se passait, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et chaque 8 mars, désormais, c'est le moment de faire le bilan, calmement, j'espère que vous avez la ref, sur effectivement les reculs parce qu'il y en a, et les avancées en matière de droits des femmes. Alors, en marge de la mobilisation encore assez record, hein, on voit que les féministes se mobilisent dans toute la France, mais dans le monde entier, parce qu'il y a quand même un appel à la grève internationale féministe qui est assez chouette et assez intéressant, qui commence vraiment à prendre corps. En marge de ça, Emmanuel Macron a décidé de saluer la mémoire de Gisèle Halimi. Sacha, je te vois hocher de la tête, t'as pas l'air très convaincue.
Non, je pense que, en fait, Gisèle Halimi, elle est décédée en 2020. Elle est décédée en 2020 et ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans, qu'on attend que Emmanuel Macron lui rende hommage, justement, parce que grande avocate, qui a notamment permis d'ouvrir la voie à l'IVG avec le procès de Bobigny en 72. Elle avait défendu 5 femmes, dont une jeune femme de 16 ans qui avait été violée, qui avait décidé d'avorter.
Et voilà, illégalement, du coup, à l'époque.
Voilà, illégalement à l'époque, pardon. Et ça avait ouvert la voie à l'IVG. C'est aussi elle qui a permis que le viol soit constitué en crime.
Absolument.
Je pense que parler de récupération, c'est un peu compliqué pour moi, parce que s'il ne l'avait pas célébré, on lui aurait reproché.
Enfin, oui, mais célébré. L'idée de base, c'était quand même qu'elle rentre au Panthéon, en fait.
L'idée de base, c'était qu'elle rentre au Panthéon. Ça fait 2 ans que ça traîne. Élysée, c'est pas trop. Des dernières informations que j'ai lues, en tout cas, c'est pas mort. Le dossier n'est pas mort, pour le coup.
D'accord.
Il y a Joséphine Baker qui est rentrée au Panthéon avant. Ils ont peut-être privilégié un dossier sur l'autre, je sais pas. Mais a priori, c'est pas mort, de ce que dit l'Élysée. Donc...
Autre chose intéressante qui s'est passée hier, donc durant cette commémoration, Isabelle Macron, je ne sais pas qui c'est.
C'est nouveau.
C'est bon. Le double maléfique. Ah non, ça ne peut pas être ça. Donc Emmanuel Macron, pardon, a dit qu'il voulait que finalement reprendre à son compte, c'est-à-dire que l'exécutif reprenne à son compte la question de la constitutionnalisation du droit à l'avortement précisément. Et on fait un petit point là, technique. À la base, c'était une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui ensuite a été complètement réécrite au Sénat et qui devait, si on s'en tient à la procédure qui doit être adoptée normalement pour les propositions de loi constitutionnelles, être soumise à référendum. Là, le président de la République a décidé que ce sera un projet de loi, mais dans le cadre d'un projet de loi constitutionnel qui sera plus global sur la réforme des institutions, mais que finalement ça lui permet en fait de passer par le Congrès et d'éviter la voie du référendum. Il a parlé de liberté des femmes à avorter. C'est-à-dire qu'il a repris finalement la rédaction du texte tel qu'issu des débats au Sénat, qui pose un peu problème. Sacha, tu avais un petit point de vue là-dessus.
C'est vrai que les députés avaient voté cette constitutionnalisation, plus long mot de la langue française,
ouais,
il me semble.
Ouais, non, je crois que c'est anticonstitutionnellement.
Ah oui, c'est
anticonstitutionnellement,
ouais,
tu te souviens quand on était à l'école.
Avec l'appellation droit. Et le droit, ça oblige l'État, en fait. Ça oblige l'État à s'engager à ce que les femmes aient un accès à l'IVG et qu'il leur soit garanti.
Une obligation de moyens, ouais.
Voilà. Au Sénat, l'intitulé avait été modifié par Philippe Bass, sénateur LR, qui lui a réécrit un peu...
Président de la commission des lois, si je crois, je dis pas de conneries.
Excellent. On fact-checkera.
Ouais.
On a un service de fact-checking en direct.
Oui.
On fact-checker.
Le chat, tiens, le chat, c'est ça. Jean, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît. En plus, je suis sûre qu'il le connaît par cœur. Ancien président. Ah, ok. Parfait. Merci, Jean.
Merci, Jean. Donc en fait, le Sénat a suivi l'avis du Conseil constitutionnel qui, lui, parlait de liberté, pour le coup. Et c'est Philippe Bas qui l'a réécrit en suivant l'avis du Conseil constitutionnel, qui lui-même suivait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que la liberté consiste à faire tout ce qui nuit pas à autrui. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est que ça oblige moins l'État. Mmh. C'est que ça oblige moins l'État, et c'est un peu problématique. Mais les constitutionnalistes vous expliquent que, dans les faits, ça ne changera a priori pas grand-chose.
Oui, affaire à suivre. Je crois que les associations type Planning et compagnie ne sont pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, le problème de la formulation telle qu'elle est, elle a été adoptée au Sénat, c'est que la loi constitutionnelle renvoie au législateur. C'est le législateur qui détermine les conditions dans lesquelles l'accès à l'IVG se réalise, en fait.
C'est
et
ça.
Ce qui veut dire que, de fait, si on veut passer par des conditions plus restrictives à travers la loi, ce sera potentiellement possible.
Et t'as aussi ce problème à travers la forme que le Sénat a décidé, c'est-à-dire que le Sénat a décidé d'en faire un alinéa dans un article, alors que l'Assemblée nationale avait vraiment dit « on veut que ce soit le 66e article, alinéa 2 de la Constitution la forme aussi change. »
Oui, bien sûr, sans compter qu'en plus, du coup, les personnes trans sont exclues, en fait, les hommes trans qui peuvent être enceintes sont exclus de la formulation puisque le mot femme exclut de fait aussi cet accès aux personnes trans. Antoine, toi, t'as fait un petit point sur l'opinion publique. Qu'en pense l'opinion publique de cette constitutionnalisation ?
J'aime bien faire ce petit
point. Oui, j'aime bien ce côté, le côté baromètre, thermomètre, pas le thermomètre de Jean Mastier, mais le thermomètre de l'opinion. Pardon.
J'espère.
J'arrête.
Oui, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une inquiétude qui est plus importante aujourd'hui qu'auparavant, justement, sur le fait que l'interruption volontaire de grossesse puisse être remise en question. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a 56% des Français seulement qui disent que c'est impossible qu'à moyen terme, qu'à court ou moyen terme, ce soit remis en question, alors que ce chiffre, c'était 65% en 1995. Donc tu vois qu'il y a quand même une inquiétude à ce niveau-là, en France, et contrairement à ce que Marine Le Pen pouvait dire ce matin quand elle était invitée sur France Inter et qu'elle parlait justement de toute cette question-là, elle disait « bon, en fait, personne ne remet ça en question ».
Oui, bien sûr.
Si, quand même, c'est une vraie vraie question, même quand tu regardes ce qui s'est passé en Espagne il y a quelques années, où là, il y a eu vraiment des débats sur le fait de remettre en question l'IVG. Et du coup, c'est vraiment une préoccupation qu'on a en France. Et à côté de ça, bah, du coup, les Français sont très largement favorables à ce qu'il y ait une constitutionnalisation de l'IVG. C'est 81% des Français.
C'est énorme.
Oui, il y a une très majoritaire dans l'ensemble des
Français. Et qu'est-ce que ça nous dit finalement, Macron, il écoute l'opinion quand ça lui fait plaisir ?
Bah, il écoute l'opinion quand ça lui fait plaisir et surtout quand ça l'arrange, parce que là, de pouvoir remettre la barre à gauche après la séquence des retraites aussi, où il a été quand même pas mal attaqué sur le fait d'être hyper libéral, là quand même, bon, la promesse de Macron en 2017, c'était et de droite et de gauche. Maintenant, c'est plus et de droite et encore de droite. Donc, d'avoir une mesure un peu phare comme ça sur un sujet de société. Ce qu'a pu faire Hollande aussi avec le mariage pour tous, finalement. C'est quand même quelque chose qui est...
Oui, au moment d'un débat un peu enflammé sur la réforme des retraites,
complètement
le timing n'est pas inintéressant.
Ben voilà, c'est ça, on parle de ça, du coup.
Oui, ouais, bien sûr.
Il va falloir se méfier de la manière dont va être... puisque tu parlais des dispositions juridiques, mm-hmm. de la manière dont la loi va être votée ou pas, du coup. Ouais. Puisque ça va être un packaging constitutionnel.
Oui,
ça va être un packaging constitutionnel. On ne sait pas de quoi il va être comporté, à part la constitutionnalisation de l'IVG. À tous les coups, on va avoir avec la baisse du nombre de députés. J'ai lu certaines sources qui parlaient aussi du septennat. Voilà, on va...
Bah oui, tiens, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi pas ne plus limiter les mandats dans le temps ? Ouais. Hein, c'est vrai ?
C'est la Russie, ça, madame.
Ah oui. Et pas n'importe laquelle. Vous avez la rêve, bien sûr. Bon.
Mais le fait est que s'il inclut ces deux propositions, par exemple, dans le packaging, est-ce qu'il y aura toujours les 3/5 à l'Assemblée nationale, enfin, au Congrès, pardon, pour le vote.
C'est deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
En plus,
tout à fait. Ouais.
Même
ouais.
Si ouais. C'est nécessaire.
Sachant que la première tentative de réforme constitutionnelle de Macron avait été bloquée, ça l'arrangeait bien, par le Sénat en 2018. Ouais. Donc voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le moment que vous attendez toutes et tous avec impatience. La vie d'Adèle. Bonsoir Adèle.
Mais il est où ? Mais où est-il ?
Non, il n'est pas sous la table.
Il y a quand même. Ah, quel engagement quand même ce genre, feindre la maladie pour enfin laisser plus de femmes en aux commandes d'émissions politiques.
Un lendemain du 8 mars, en
très
plus,
très beau.
C'est beau, hein.
C'est presque trop gros. Chelou. Ça va ? Ouais ? Vous avez un peu parlé, hein, les amis. Cette semaine, c'était la réforme des retraites est passée au Sénat. Et on dit que c'est une chambre un peu plus feutrée, plus calme qu'à l'Assemblée nationale, mais que nenni. Il y a aussi des coups de gueule au Sénat.
Et donc ce vieux discours réactionnaire d'opposer la France de ceux qui ne manifestent pas, ne font pas grève, sonne à plat. Vous êtes hors sol là-dessus. Merci. Vous reprenez le discours
Merci,
de la droite
collègue.
Réactionnaire,
Merci.
Mais vous êtes à côté de ce que Merci. Pensent les citoyens.
Merci.
C'est chic un coup de gueule de sénateur quand même. Je suis quasiment hors de moi et pardon de vous le dire franchement, mais là vous tirez un peu le diable par la queue.
C'est ce qu'on appelle un coup de gueule bourgeois.
Un peu,
coup de gueule
ouais.
bourgeois.
Et bon, et c'était David Assouline, hein, qui n'est pas particulièrement bourgeois par ailleurs, mais bref, donc on sent un peu. Ouais, non, mais il est quand même pas à droite de l'hémicycle, je veux dire.
Ah non. Gauche cave. On peut le dire.
Sorry, David. Donc après, il y a un petit contrastounet, du coup, quand même, avec l'Assemblée nationale, évidemment, quand on vient de voir ça. Pour mémoire, la fin des débats à l'Assemblée, c'était ça.
On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur.
On va voir la version longue. Mais pourquoi ? Mais parce que c'est des délicieuses images, on a envie de les revoir. Mais pourquoi est-ce que je vous montre ça, hein, évidemment, des députés LFI qui chantent. Au-delà donc du bonheur de ces images, c'est parce que, breaking news, les députés insoumis viennent d'ouvrir un Glee Club à l'Assemblée. Une chorale.
Oh, wow. Oh, nice. Une quirale ou une chorale ?
Non, c'est une chorale. Ah. Enfin, peut-être qu'ils ont d'autres projets, mais là, c'est une chorale. L'idée, c'est de resserrer les rangs, tu sais, un peu divisés par les guerres de chapelle. Du coup, comme dans toute organisation de la Startup Nation, si chère au cœur des LFI, ils vont faire du team building. Voilà. Et... Alors, ils ont hésité un peu avec du paintball. Mais ils se sont dit que les vocalistes, c'était peut-être plus rassembleur. Puis on n'est pas après, enfin voilà, à l'abri des compètes solo, hein, genre « Je suis là !» Je suis là. Vous demanderez d'ailleurs à Louis Boyard, ça m'intéresserait de savoir s'il fait partie du club de chant.
Oui, bah oui, oui.
Je veux bien, vous pouvez rajouter une petite question. Alors après, c'est pas nouveau la passion des LFI hein, pour la chansonnette. Et si vous suivez l'émission, vous le savez, les Insoumis avaient un groupe de rock. Les Insoussols. Ah, je vois des regards... Il y a un petit côté fête de la musique, hein. Mais donc c'était Adrien Quatennens, hein, chanteur et guitariste du groupe. J'ai pris l'extrait où il est guitariste parce que parfois il est batteur. On ne voulait pas créer de polémique inutile. Voilà, voilà. Donc hier c'était le 8 mars. Et ça rendait des hommages aux femmes, mais alors à tire-larigot. Hein. Et moi, j'aimerais rendre un hommage à une femme en particulier qui n'a pas démérité cette semaine, Élodie Jacquier-Laforge. Est-ce que vous savez qui est Élodie Jacquier-Laforge ?
Eh bien, c'est elle. Deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée.
Les petits yeux, effectivement, qui se soulèvent. Non, mais c'est... C'est la députée de l'Isère et vice-présidente de l'Assemblée nationale et c'est elle qui présidait la fameuse session dite des bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti hier dans l'Assemblée. Elle était outrée, elle est montée dans les aigus. C'est pas possible, elle est montée. Et cette élue de la République a dû prononcer cette phrase que peu de parlementaires pensaient devoir dire une fois dans leur vie.
Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre.
Bah oui, monsieur le ministre. Mais normalement, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de rappeler à des ministres. Mais s'il faut redire que dans l'hémicycle, les insultes et les bras d'honneur, c'est interdit, peut-être il faut rappeler aussi que les hélicobites non plus, c'est pas autorisé. Je sais pas. Peut-être il faut. Oui, c'est un
par
peu.
Par prévention.
Mais peut-être il faut le dire, hein, je sais pas. Et c'était pas facile comme situation pour elle, donc il a fallu qu'elle mette les choses bien au clair.
J'ai des images dans la tête.
Les bras d'honneur, qu'ils soient physiques ou verbaux, ne sont pas admissibles.
Donc, les bras d'honneur physiques ou verbaux ? Un bras d'honneur verbal, ça ressemble à quoi ? Je sais pas, ça prend quelle forme ? C'est genre, je suis pas du tout d'accord avec vous, bras d'honneur, monsieur le député. Donc ça, non plus,
deux fois,
c'est interdit, heureusement. Et tu veux, bras d'honneur, bras d'honneur. Bras d'honneur.
Contre bras d'honneur.
En plus, comme on n'avait pas la vidéo de ce fameux geste hein, du garde des Sceaux, on a tous disserté pendant 36 heures, tout genre, mais à quoi ça ressemble un bras d'honneur de Dupond-Moretti, tu vois ? Ça doit être délibéré, viril, un truc de bonhomme. Et puis, bah, les images, les bandes sont sorties cet après-midi. Voici, en exclusivité. Ça, c'est le premier. Mais vous allez voir, attends, on a quand même une information importante. Il prend un peu le temps... Et attention, il nous prépare hop, un deuxième qu'il enchaîne immédiatement avec un troisième. Et en fait, c'était pas deux hein, bras d'honneur,
Madame
mais trois.
Ça,
c'est quand même une information importante. Qu'est-ce qu'on en pense de ce bras d'honneur, s'il vous plaît enfin...
C'est un bras d'honneur irounais. Genre un mignon,
c'est un peu
quoi.
Mou hein, pour quelqu'un qui a fait du théâtre, des trucs comme ça, des films.
Bah ouais, franchement.
On a connu le meilleur acteur, quoi.
Oui, c'est pas terrible quand même.
On est tous un petit peu déçus. Ouais.
Peut-être qu'un bras d'honneur verbal eût été
ouais,
plus
peut-être qu'il aurait pu le dire, exactement. Non, parce que là, vraiment, clairement, c'est le mec au collège, tu sais, qui se met derrière le dos de la prof. Après, il dit « Interro surprise, regarde, je t'ai la mèche. » Non, j'ai rien fait, madame. Vraiment. Bref, droit des femmes toujours. Il y a un sujet qui n'est pas encore réglé et c'est celui de la représentation des femmes en politique, au poste de direction, dans les cabinets ministériels. Mais il y en a une, à part Léa, qui bosse pour que ça change et elle bosse dur. C'est Christine Lagarde. Alors, ça se voit pas, mais là, présentement, Cricri lutte ardemment contre le patriarcat. Grâce à ce geste symbolique, et c'est vraiment ce qu'elle dit sur Instagram, où elle embrasse l'équité. Voilà. Alors, elle et son équipe embrassent tous l'équité. Voilà, c'est vraiment sublime.
C'est un challenge TikTok ou pas?
Mais je pense que comme elle le fait pas toute seule et qu'elle le poste sur les réseaux, c'est peut-être pour nous demander à nous également de le faire, parce que c'est comme ça qu'on règle l'égalité homme-femme. Exactement. Léa, tu le savais pas? Ben, il faut embrasser l'équité.
C'est sûr que je me sens vachement plus autonome et émancipée. Là, c'est vrai.
Tu le sens immédiatement. Vrai. Non, mais je veux dire, enfin, il y a des trucs comme ça qui circulent sur les Instagram et on n'y pense pas. Tu vois, c'est comme pour les Iraniennes. Si vous aviez tous coupé vos cheveux, eh ben, elles seraient pas gazées dans leurs écoles aujourd'hui. Donc, non, c'est vrai, franchement.
Alors, elle a coupé ses cheveux, Cricri?
Je crois pas que Cricri ait coupé ses cheveux, mais Cricri, elle travaille sur l'égalité femmes-hommes pour l'instant, ok? Donc, elle embrasse. Non, mais vraiment, je vous invite à aller voir. C'est vraiment le... Je sais pas, je trouve ça terrible.
Terrible.
Dans la même direction, donc toujours de représentation des femmes, il y a des efforts qui sont faits aussi aux États-Unis et dans l'équipe du président Biden himself.
More than half the women in my cabinet, more than half the people in my cabinet, more than half the women in my administration are women.
More than... Alors attendez, si je vous traduis littéralement, plus de la moitié des femmes de mon cabinet sont des femmes. Ça, c'est quand même le max de la représentation. Tu peux pas faire mieux. Ils font toujours mieux que nous, hein, les Américains, évidemment. Il s'en sort peu... Bon, il se plante un peu, Biden, mais il s'en sort pas si mal sur sa communication parce que c'est périlleux d'être un homme le 8 mars. Si. Parce que tu dois dire que t'es féministe et trouver des causes à défendre publiquement, mais sans qu'on comprenne trop clairement que le reste de l'année, globalement, tu t'en bats un peu les steaks.
Genre, tu vas pas à la manif comme Bayou, quoi.
Ouais. C'est un peu ça, tu vois, ouais. C'est une slackline. Tu vas mollo, quoi. Il y en a qui y vont sans entraînement. Et hier, celui qui a mis les deux pieds dedans, ou à côté... Ouais, c'est Ricky, et oui. Et ben oui, le féminisme est d'abord de droite, et ça se voit hein, sur l'organigramme LR, d'ailleurs. Ce petit Retailleau, Marlex, Larcher, Wauquiez, waouh. Que des femmes à la direction des LR. Et le féminisme est de droite, hein, mesdames et messieurs, parce que les grands hommes de droite, ils ont des mères, des filles, des femmes, et peut-être même des maîtresses. Donc c'est quand même des grands féministes. Hein. Ouais. Apparemment, Vincent Cassel fait des missions de conseil hein, en freelance pour les LR. Le féminisme est donc de droite, comme si Olivier Dussopt disait que la réforme des retraites était de gauche. Ouais, il l'a dit. Et il l'a écrit. Bref, pour le féminisme comme pour les retraites finalement, et comme globalement pour beaucoup de choses dans la vie, ça n'a peut-être pas besoin d'être de droite ou de gauche, peut-être ça doit juste être de bon sens. Voilà, c'était ma petite pensée du jour que je voulais partager avec vous.
Merci beaucoup, Ayel. Et sans plus tarder, les invités de la semaine. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Vous venez
Bonsoir.
En tant que représentante. Safia Haït Warabi est représentant Romain Montbert-Soussan de l'association SOS Racisme. Merci d'être là ce soir. Merci d'avoir accepté cette invitation. On vous reçoit parce que vous avez encore une fois mené des testings pour voir si finalement c'était compliqué lorsqu'on était racisé en France d'avoir notamment accès à des lieux de loisirs comme les boîtes de nuit. Un testing, c'est quoi ?
Alors, pour résumer simplement, c'est un outil juridique sur lequel nous, on se repose pour prouver justement qu'il y a des discriminations dans l'accès à différents services. Pour expliquer comment ça fonctionne, on va organiser l'entrée, la présentation à l'entrée d'un établissement de plusieurs groupes. Donc, un premier groupe test qui va être composé de personnes... issus de l'immigration ou d'origine supposée étrangère, Donc là, dans le cadre du testing qu'on a réalisé, le premier groupe était un groupe composé de personnes principalement noires, avec ensuite donc voir comment ils sont reçus et voir comment justement ils vont être reçus, avec ensuite un deuxième groupe test en fonction des forces qu'on a en présence. Là, le deuxième groupe, en l'occurrence, c'était un groupe de personnes d'origine nord-africaine. Qui, pareil, se sont présentés à l'entrée de l'établissement, toujours dans un délai assez court pour pas qu'il y ait un changement dans l'affluence de l'établissement. Et ensuite, le dernier groupe, le groupe contrôle, composé principalement de blancs, pour voir comment ils vont être reçus.
C'est les différences de traitement dans l'accueil, etc. Donc ça, c'est des choses que vous avez l'habitude de mener depuis un peu plus d'une dizaine d'années.
Ça fait 20 ans,
ouais,
en réalité.
20 ans, ouais. Ça a commencé dans les années 90.
On a importé exactement cette période, cette méthode dans les années 90. Et en fait, au début des années 2000, on arrive à faire en sorte que ce soit une preuve recevable par la justice. Parce que le testing, c'est un peu là l'enjeu. C'est qu'en fait, quand on est victime de discrimination raciale, qu'on a la sensation d'en être quand on cherche un logement, quand on cherche un taf, quand on va en vacances, quand on veut juste se défouler en boîte de nuit, ça reste toujours une espèce de vague impression. Et en plus, dans une société où on nous dit qu'on n'est pas légitime, en fait, à être victime de racisme, qu'on est trop des victimes, etc.
On a l'universalisme républicain.
Mais bien évidemment, faut pas abuser, ouais, je suis gaffe. on a tendance, quand on a une sensation de discrie, à se dire, si tu commences à dire que t'es victime de racisme, on va te dire encore que t'en fais trop. Et en fait, quand on fait des testings et qu'on pose des chiffres là où il n'y en a pas, on reçoit tellement de messages, de mails, de DM sur les réseaux sociaux. Vous pouvez pas savoir qu'ils viennent nous dire « Merci, j'étais pas fou, j'étais pas folle. » Donc en fait, ça vient remettre une réalité là où le discours médiatique, politique et les institutions ont fait en sorte de nous faire croire que le racisme et la discrimination raciale, c'était fini. Les choses ont changé. Elles ont évolué, parfois bien, parfois mal. Mais en l'occurrence, ces chiffres, ils sont aussi là pour remettre une réalité.
Avant peut-être de regarder, parce qu'il y a Loopsider qui vous a suivi pendant cette dernière série de testing que vous avez menée là récemment, la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez des chiffres qui permettent d'avoir un regard sur l'évolution des différents testings que vous menez depuis 20 ans? Est-ce que vous arrivez à constater des améliorations? Et si oui, ou sinon, pourquoi d'après vous?
Alors, je sais pas ce que t'en penses, Romain. Moi, je parlerai plus sur les différences de pratiques discriminatoires, parce qu'il y a vraiment des dingueries, mais si t'as des chiffres, je t'en prie.
Alors, on a quelques améliorations qu'on peut apercevoir. Là, en l'occurrence, sur les testings des boîtes de nuit, effectivement, ceux qu'on a réalisés donc le week-end dernier, on était autour de 20% des établissements qui ont discriminé sur l'ensemble de.
Il y avait combien d'établissements, du coup, vous avez testé?
On a testé, c'était dans 10 villes.
Nationalement, 52 établissements.
Ouais. OK.
Donc ça reste quand même important. Ça a été beaucoup plus important sur d'autres testings qu'on a fait par le passé. Ça dépend aussi des périodes sur lesquelles on va tester. Donc il y a des améliorations, mais en fait on va remarquer qu'il y a d'autres domaines de testing où ça, en fait, on va avoir des régressions ou des améliorations vraiment minimes. Je pense notamment au testing qu'on avait fait, réaliser un testing inversé sur le logement, où en fait en 3 ans les chiffres étaient à peu près similaires. 3 ans d'intervalle. Donc, pas vraiment d'amélioration et, comme disait Safia, des pratiques qui vont parfois varier.
Là, par exemple, sur les établissements de nuit, ce qu'on constate, c'est que du coup, on a fait des testings à Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Il y a eu Paris, Lille, Mulhouse, Strasbourg, Lyon, Nice, etc. Et en fait, sur 52 établissements testés, on se rend compte que du coup, il y a 20% de discrimination avérée. En sachant qu'on n'a pas compté là où on avait des doutes. Vous voyez, on fait pas les méchants, je sais pas quoi.
Ouais, c'était genre flagrant délit.
C'est genre un flagrant délit. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, moi, du coup, les testings, je les ai menés avec l'équipe marseillaise. Coucou Marseille. Et ce qui se passe, c'est que, c'est par exemple, il y a le groupe noir qui va rentrer, on leur dit, faut de la réservation. Le groupe arabe va rentrer, on leur dit, il n'y a plus de place. Le groupe blanc va rentrer avec littéralement 1 minute d'intervalle entre chaque groupe et on va leur dire, marhaba, vous êtes bienvenus et tout. Donc non, c'est vraiment c'est quand il y a une pratique discriminatoire avérée, on a les preuves, on a les vidéos. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on compte après ces plaintes, après ces testings, porter plainte. Donc là, on est à 20% de discrimination. C'est donc du coup en baisse par rapport au testing et à l'évolution qu'on a constaté ces 20 dernières années. Cependant, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les pratiques discriminatoires, elles ont évolué. Par exemple, si contrairement aux années 80-90, on va pas, sauf exception, comme je l'ai connu à Marseille, avoir des refus catégoriques sur les populations noires et arabes, par exemple. on va avoir des politiques de quotas par établissement. C'est okay. Mais parce qu'en fait, les testings sont une épée de Damoclès. En fait, ils ont tellement peur de se faire pointer pour racisme et discrimination raciale qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils mettent en place des politiques de quotas où on en met un peu pour pas être suspect quand on passe devant ou qu'on check les signalements Google pour établir nos cartographies de testing. Mais du coup, il en faut pas trop non plus. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il peut aussi y avoir des discriminations sur la qualité du service. Par exemple, vous êtes noir arabe, vous rentrez dans un établissement, on va vous mettre tout au fond, mais pas à la terrasse. Par exemple, ça, c'est des choses qu'on va tester aussi. L'emplacement des personnes. Parce que faut pas non plus trop de personnes noires arabes issues d'immigration ou asiatiques en fait qui viennent faire la vitrine de l'établissement. Autre pratique discriminatoire que j'ai pu vivre personnellement, c'est par rapport à d'autres groupes, on va vous demander de payer en premier avant même par exemple d'avoir reçu vos consos par peur que vous vous barrez sans payer en fait. Donc il y a autant une discrimination dans l'accès à l'établissement que après la manière dont vous allez être traité dans l'établissement en fait.
Ouais, bien sûr. On va regarder la vidéo justement pour que vous compreniez un peu l'ampleur du problème. Si en régie, vous voulez.
Vous êtes que trois. Regardez, c'est uniquement sur table ce soir. Ouais.
Du coup, on est en retard.
Il faut prendre une table.
Il faut prendre une table.
Oui.
D'accord. Et pour réserver.
Sinon, vous voulez prendre maintenant. Il y a un minimum spend de 1 000 euros.
Bonsoir.
Vous avez des agressions, messieurs-là ?
Non.
C'est 100 euros l'entrée pour les hommes et 50 euros pour les femmes. Et après, ça inclut chacun.
Ouais, la vidéo est assez courte et très éloquente. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin.
Très parlant juste de ce que je viens de dire.
Ça explique très très bien ce que vous venez de dire, effectivement. Sacha, tu voulais réagir ?
J'ai une question. J'ai vu un commentaire dans le chat auquel je n'adhère absolument pas qui dit « Pourquoi porter plainte ? Est-ce que les établissements n'ont pas le droit de choisir leurs clients ? » Est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît ?
Ouais. Bonne question.
En réalité, c'est Merci. Une bonne et une mauvaise question dans le sens où, en réalité, la sélection, évidemment, sur des critères raciaux, mais en réalité, c'est juste qu'il y a consensus, mais il faut le savoir, hein, sur l'âge et la manière dont vous êtes habillé, en réalité, c'est illégal. C'est illégal, c'est juste qu'en fait, il y a un consensus commun, y compris un consensus des autorités. Et y compris, c'est ça qui est le plus scandaleux, un consensus des autorités administratives et notamment des préfectures. C'est ça, en fait, le plus scandaleux. Et pourquoi porter plainte ? C'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que la justice, en fait, ne prend pas au sérieux en réalité les questions de racisme et de discrimination raciale. Nous, on a beaucoup de difficultés à faire condamner, par exemple, les établissements ou les entreprises qui commettent de la discrimination raciale. Un exemple, en 2021, sur toutes les plaintes pour discrimination raciale, il y a eu zéro condamnation. Donc aussi, comment dire, secouer le cocotier à la justice... Et en fait, continuer à foutre la pression aussi bien sur l'institution judiciaire que sur les établissements et en fait se vivre comme une double épée de Damoclès, c'est ultra important parce qu'en fait, on va pas non plus dire à la justice « Oh ouais, bah saisissez vous si vous voulez. Hein. » Bon.
On a vu d'ailleurs assez récemment des situations de discrimination qui pouvaient être dénoncées de manière assez spontanée sur les réseaux sociaux. Vous, donc ça fait une vingtaine d'années que vous faites ça à travers les testings, à travers aussi des recours en justice, etc. Est-ce que les réseaux sociaux ont changé votre façon de travailler ? Et est-ce que vous trouvez que finalement... le shitstorm que ça peut créer sur les réseaux sociaux auprès d'un établissement quel qu'il soit n'est pas plus efficace qu'une action en justice parfois.
C'est effectivement la question qu'on peut se poser, mais l'important en fait, je pense, c'est qu'il y ait les deux justement. C'est que parce que effectivement, nous, quand on mène des actions en justice, c'est aussi un moyen de faire avancer parfois la jurisprudence. Et donc faire avancer la justice sur ces questions-là. Donc c'est fondamental, mais effectivement, les réseaux sociaux permettent une visibilité. C'est aussi pour ça que nous, par exemple, en fait, on essaye de médiatiser au maximum ces actions, parce que c'est important de mettre ça dans l'espace public, surtout qu'en fait, on a le sentiment, après chaque testing, que en fait, à chaque nouveau testing, les Français redécouvrent qu'il y a des discriminations, qu'il y a du racisme, il y a des indignations qui vont monter et disparaître quelques jours plus tard. Donc c'est comment on arrive aussi à montrer que non, en fait, le racisme, c'est tout le temps, et comment on peut lutter contre ça.
Ouais, bien sûr. Après, moi, j'ai le sentiment, mais qui était partagé hein, par d'autres personnes, sur la banalisation d'un discours raciste au sein des médias. mais aussi dans le milieu politique. Et moi, je trouve ça très inquiétant parce qu'en fait, j'ai l'impression que le Sarkozy a un peu ouvert la brèche, quoi, en disant OK, on va dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Genre, on est décomplexé maintenant, et je trouve ça super flippant parce qu'on, enfin, vous l'avez vu comme moi, on a des racistes en roue libre parfois à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est quand même très inquiétant. J'imagine que ça peut avoir aussi un impact sur l'opinion publique. Et là, je me tourne vers Monsieur Opinion Publique.
C'est parfait, la transition est nickel. Oui, en effet, il y a des travaux qui sont extrêmement intéressants. C'est ceux qui sont faits par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et justement, chaque année, ils vont avoir... Enfin, ça synthétise vraiment tout ce qui peut être fait en termes de perception des discriminations au sein de la population française. Il y a notamment un indicateur qui est fait chaque année pour voir un peu l'évolution de la tolérance de la population française par rapport à différentes minorités. Donc ça, c'est un indicateur synthétique et ça permet juste, si tu veux, de voir un peu quelle est la tendance. Donc on voit quand même qu'à part des effets un peu de cycle, et notamment qui sont liés aux personnes qui sont au pouvoir, tu vois, sous la période Sarkozy par exemple, il y a une baisse assez nette de la tolérance, mais qu'on est plutôt quand même sur une augmentation de la tolérance. Néanmoins, est-ce que tout va bien ? Non, pas du tout. Et c'est là où, en fait, les nouvelles générations sont beaucoup plus tolérantes que les anciennes générations, mais au sein d'un pays qui est quand même globalement extrêmement intolérant. Parce que si on, pour donner quelques autres chiffres, à l'heure actuelle, il y a quand même 66% des Français qui disent qu'il y a trop d'étrangers en France, 55% qui disent que les immigrés ne font pas suffisamment d'efforts pour s'intégrer, et 62% on ne se sent plus chez soi comme avant. Donc c'est quand même, voilà, il y a vraiment une question qui se pose à ce niveau-là. Et un autre chiffre, c'est le dernier, je te promets,
que
je
j'adore les chiffres,
que j'ai retrouvé dans ce, oui c'est ça, enfin c'est les fameux chiffres tirés de mon dernier livre d'ailleurs, si vous voulez l'acheter pour les droits d'auteur, c'est pas mal. Le dernier chiffre, c'est que à l'heure actuelle, dans l'ensemble de la population française, il y a 1,2 million de personnes qui ont déjà subi un événement raciste. 1,2 million de personnes. Et ça montre quand même qu'il y a vraiment une question qui se pose à ce niveau-là et qu'il devrait y avoir une vraie réflexion collective là-dessus. Et quand tu parlais des faits des médias, oui, quand il y a Fox News, CNews, pardon, qui arrive en France, Zemmour qui est en roue arrière pendant toute la campagne présidentielle, c'est sûr que ce n'est pas des bonnes choses à ce niveau-là pour avoir une évolution positive.
Mais d'ailleurs, de manière générale, ça contribue à ce qu'on appelle les crimes de haine, parce qu'on se rend compte que finalement, les crimes de haine en France ne sont pas en baisse, hein, et c'est particulièrement inquiétant. Et ça concerne bien sûr le racisme, mais ça concerne aussi le sexisme, la transphobie, etc. etc. Vous, dans vos pratiques au quotidien, j'imagine que vous êtes la cible de menaces, comme n'importe quel militant et militante antiraciste. Aujourd'hui en France, on voit qu'il y a des permanences d'associations qui sont vandalisées. On voit que l'extrême droite se structure de plus en plus pour...
Raphaël Arnaud qui hier s'est fait...
Exactement, j'allais venir, ouais. Exactement. Enfin, qui s'organise de plus en plus pour venir... Bah, Louis Boyard qu'on va recevoir, qui a été attaqué à l'Université de Bordeaux pendant un meeting. Qu'est-ce que ça change, vous, au quotidien, dans votre activité, dans vos actions ? Est-ce que vous le ressentez déjà, cette montée de la violence
oui.
de l'extrême droite ?
Ouais. Tout à fait, nous, personnellement. Mais ce qui se passe, c'est que... Enfin, moi, je vous remercie de poser ce débat sur la table. Parce qu'en fait, cette montée du racisme, de la xénophobie, et surtout de la libération du discours raciste de manière mainstream, en fait, faut comprendre que ça pousse à de la radicalisation. En fait, on nous a parlé pendant très longtemps de radicalisation islamiste, djihadiste, etc. Mais en fait, aujourd'hui, la radicalisation mainstream qui se passe, c'est l'islamisme est un extrême droite. Là, on a une autre extrême droite identitaire qui radicalise de manière mainstream via les grandes chaînes télé françaises, en fait, en France. Et ça pousse nécessairement à des passages à l'acte. Et en fait, quand vous avez des partis d'extrême droite qui montent de manière imminente aussi dans la sphère politique, ça contribue à structurer une impunité des groupuscules fascistes en France. Donc du coup, ce qu'on a, nous, à SOS, c'est qu'il y a plusieurs choses. Vous allez soit avoir des individualités qui vont passer à l'acte et commettre des crimes racistes. Il y en a dernièrement un qui s'est fait condamner dans le nord de la France parce qu'il a assassiné un père de famille maghrébin. Enfin, il y a plein d'histoires qui se passent comme ça dont on a du mal à entendre parler. Aussi parce que les institutions, la justice, vont toujours contourner, par exemple, la caractérisation raciste du crime, par exemple. Et puis, ce qu'on a de manière globale, c'est que, enfin, par exemple, je suis étudiante, et ce qu'on constate, c'est aussi une résurgence des actions de groupes fascistes, en fait, dans les facs. Moi, par exemple, je suis étudiante à Nanterre, et il y a trois semaines, il y a le GUD qui est venu sur la fac et qui a menacé des femmes voilées, des personnes noires et arabes, qui m'a vu, moi, qui m'a menacée parce que je suis militante antiraciste. Ensuite, donc le GUD est venu deux fois sur la fac. Il y a la cocarde accompagnée d'un service d'ordre armé qui est venu. Ça s'est en passé dans des universités à Bordeaux avec l'Action française, à Aix-en-Provence, à Lyon, etc. Ça reste quand même une extrême droite qui, en tout cas sur Nanterre notamment, tâte le terrain. Ils viennent de manière extrêmement nombreuse. La fois ils sont venus, ils étaient 17. Il y a leur chef, Marc de Cacré, contre qui on est en procès. Enfin, en procès, non, parce que la justice n'avance pas, mais contre qui, enfin, il y a une mise en examen suite à l'agression des militants d'SOS Racisme à Villepinte, qui est venu. Et en fait, on en parlera juste après, mais justement, ils sont dans une dynamique où on se sent monter en puissance parce qu'il faut vraiment rappeler et taper sur la table pour rappeler que l'extrême droite fascisante qui passe à l'acte et l'extrême droite politique, ce sont les deux faces d'une même pièce, quand bien même ils voudraient se donner un vernis social, quand bien même ils voudraient lisser en fait leur apparence et leur discours. Et ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent sur les facultés, notamment sur les facultés de banlieue traditionnellement de gauche et antiracistes, ils viennent provoquer et tâter le terrain. Ils n'étaient pas tellement à l'aise en réalité, parce qu'ils sont venus surarmés et très nombreux, mais ça renvoie quand même un message où on a intérêt à faire front uni et à prendre conscience qu'on fait partie d'un même camp social et qu'en période de mobilisation contre la réforme des retraites, contre laquelle SOS Racisme est mobilisé parce que c'est une réforme profondément raciste et sexiste, ben en fait, va falloir faire front uni et ils profitent de cette mobilisation-là pour trouver des militants sur les facs.
La réponse du gouvernement face à ces actions, vous la trouvez satisfaisante ?
Bah non, mais il y en a pas en fait. Il y en a pas. Non, mais enfin, je fais pas la. Non, mais il y en a pas. Non, mais il y en a pas en fait. C'est... Non, mais il y en. Enfin, je sais pas quoi dire à part il y en a pas. Enfin,
il y en a pas.
Attendez, juste Gérald Darmanin a quand même écrit pour l'Action française, ok ? Quand il était étudiant, tout ça, machin. Et ensuite. Même si, par exemple, l'Europe a pointé du doigt qu'aujourd'hui les attentats d'extrême droite étaient une menace imminente, on a un ministère de l'Intérieur qui ne s'en saisit pas. Donc moi, je suis pas surprise au vu de la figure de Darmanin et de ce qu'il incarne, parce que c'est ce que je viens de dire, mais on est en danger. Les militants de gauche, nous sommes en danger.
La dissolution de Génération Identitaire n'a rien changé ?
Ce qui se passe avec les dissolutions, c'est qu'elles sont extrêmement importantes parce qu'elles viennent fragiliser les organisations, par exemple notamment à Lyon, qui peuvent se avoir des locales et donc du coup de fait les affaiblit dans une accumulation structurelle et matérielle. Mais il faut se rappeler qu'une fois qu'il y a dissolution, il y a souvent reconstitution. Par exemple, les Zouaves dont on va parler, je laisserai Romain un peu expliquer, mais qui ont agressé les militants d'SOS Racisme à Villepinte, ont été dissous à la suite de cette agression, mais la plupart sont... parti reconstruire le GUD en novembre 2022 en région parisienne. Donc, et la plupart de ces militants sont fichés S. Moi, maintenant, au-delà des constitutions, c'est comment il n'y a pas de suivi, en fait, alors même qu'ils sont fichés, qu'ils se permettent encore de faire des actions. Marc de Cacré, qui est le chef aujourd'hui du GUD et le chef des Zouaves, donc c'est un chef imminent aujourd'hui dans les structures fascisantes de région parisienne, est un multirécidiviste déjà condamné, mise en examen dans l'agression des militants d'SOS Racisme à Villepinte, mais aussi parce qu'il a lidé les tentatives de ratonnade contre les supporters du Maroc pendant le match France-Espagne, qui aujourd'hui est en liberté. Donc il y a aussi un je m'en foutisme de la justice qui est extrêmement préoccupant. Donc la dissolution n'est pas la solution miracle. Il y a aussi tout un suivi aussi de la justice qui doit se faire et qui aujourd'hui n'est pas là.
Excuse-moi, j'ai juste une question. Tu disais tout à l'heure que la justice et les forces de l'ordre avaient du mal à prendre vos plaintes et tout. Comment ça se caractérise ? Vous allez au commissariat pour porter plainte et on vous dit on refuse de prendre votre plainte parce que c'est pas caractérisé ?
Ce qui se passe, c'est que, par exemple, une fois que les victimes, les familles portent plainte et que nous, on se constitue partie civile, quand SOS Racisme se constitue partie civile, on fait du forcing pour que le caractère raciste soit reconnu. Et en fait, quand le caractère raciste est reconnu dans une procédure, ça permet d'aggraver, en fait, la peine. Et très souvent, c'est ce caractère raciste qui n'est pas reconnu. Donc là, les plaintes et tout sont prises, mais c'est ce caractère raciste-là qui pose question.
Ok.
Je rappelle juste que on va parler justement de cette montée de la violence d'extrême droite avec notre invité politique qui sera Louis Boyard à partir de 21h, et entre-temps on aura le PowerPoint de Vincent juste pour parler un peu programmation. Peut-être une autre question quand même assez importante. Vous concrètement au quotidien, vos actions en dehors des testings, c'est quoi? Vous faites du plaidoyer,
Bah alors, on fait tout un tas de choses parce que bon, l'association est ancienne et donc il y a une certaine expérience aussi accumulée. On a un pôle éducation populaire donc qui intervient dans les écoles, ce que dénonçait d'ailleurs Éric Zemmour. On vient faire de la propagande, propagande antiraciste dans les écoles, comme si l'antiracisme était quelque chose de mal. Donc il y a des interventions effectivement dans les milieux scolaires où on vient justement parler d'antiracisme, de la question des discriminations. On s'adresse à des collégiens, à des lycéens, donc c'est pas des choses extrêmement poussées, mais c'est quand même comment on peut apprendre à vivre ensemble, etc. D'où ça vient aussi le racisme, parce que ça vient pas de nulle part. On a donc ce pôle éducation populaire qui vraiment intervient à la fois dans les établissements scolaires, mais aussi dans des structures qui accueillent des jeunes. On fait également un pôle juridique donc, qui réalise les testings, mais qui réalise également des permanences téléphoniques de tous les jours de 10h30 à 13h, où les personnes victimes de racisme, d'antisémitisme, de discrimination en quête de conseils peuvent nous contacter.
Vous pouvez partager le numéro que, par exemple, s'il y a des gens du chat qui ont besoin de...
Tu l'as, t'as ton portable.
Je l'ai pas sur moi.
Je suis sûre que je le trouve sur Internet.
Oui, il est sur Internet.
Il est sur le site. Très important d'avoir ces données-là.
Bah,
et
ouais.
Continuellement, vous êtes libre d'appeler, de laisser des mails, de prendre rendez-vous. On est là pour ça.
Et s'il y a des gens de SOS Racisme qui regardent le live, n'hésitez pas à le mettre dans le chat.
Ouais, merci carrément. Les camarades. Genre, soyez... Aidez-nous un petit peu. Mais du coup, on a ce pôle juridique, le pôle éducation populaire. Et au-delà des interventions dans le milieu de jeunesse et du coup de mener des campagnes contre, par exemple, des réformes antisociales, contre la loi immigration, d'avoir un pôle juridique qui va structurer justement toutes ces statistiques et accompagner du coup des personnes. On est une association évidemment mouvementiste et militante, parce qu'en fait on pense aussi que quand bien même on serait force de proposition en fait pour faire changer les choses, pour amener des lois, pour amener une restructuration profonde, en fait on se doute bien que les gouvernements et les institutions ne vont pas juste accepter comme ça et qu'il y a besoin d'un vrai rapport de force militant et sociale. Et c'est pour ça que justement nous avec Romain on s'occupe de la structuration militante dans les milieux de jeunesse et dans les facultés. Il y a énormément de jeunes à SOS Racisme, on est vraiment beaucoup, mais on pense que par exemple avoir une présence dans les facs, ceci signifie à l'extrême droite que vous n'allez rien reconquérir du tout et qu'en fait on est bien présent.
Merci beaucoup, je vois qu'on peut trouver toutes les informations en fait sur le site d'SOS Racisme, donc sos-racisme.org, avec le numéro de téléphone, aussi une adresse mail pour pouvoir saisir le service juridique de l'association. Antoine, tu avais une question pour nous inviter et ce sera, je le crains, la dernière.
Oui, en fait, c'était pour revenir un peu sur ce que tu disais, le fait qu'il y a un lien entre les actes racistes violents par des groupuscules et le climat politique général. Et ce que l'on a vu ces dernières années, c'est qu'il y a une porosité en termes de valeurs de plus en plus importante entre la droite classique et l'extrême droite, qui n'existait pas auparavant. Il y avait la volonté, c'était Chirac notamment, de mettre un vrai mur avec l'extrême droite, qui est complètement tombé ces dernières années, où il y a eu une dédiabolisation de Marine Le Pen qui est complètement incroyable. Et faut bien prendre en compte que ce qui existe là dans le débat public, ça peut avoir des conséquences en termes de d'ambiance et de climat et des personnes qui vont avoir des questions qui sont extrêmement violentes. Et quand, par exemple, l'attitude de la majorité, elle peut être extrêmement critiquable à ce niveau-là. Quand au moment des législatives, il y a certains députés qui mettent sur un même plan la NUPES et le Rassemblement national, ou quand il y a des propos de Gérald Darmanin pour dire à Marine Le Pen qu'elle est trop molle, trop molle, ça veut dire qu'il faut faire quoi derrière? Je veux dire, c'est quand même, il y a un vrai climat, il y a une vraie réflexion à avoir plus en profondeur. C'est d'ailleurs l'ami Raphaël Durca qui est là parfois, qui pourrait bien en parler, parce que c'est un peu son thème de spécialité.
Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus pour nous parler de ces actions que vous menez au quotidien. Merci aussi d'être venus faire de la pédagogie sur les questions et les combats que vous menez. Merci pour votre travail. On va marquer une courte page de publicité. Non, en fait, on va donner du pognon, donner SOS Racisme, donner à Baxit, évidemment. On va vous présenter une petite vidéo d'une dizaine de minutes qui reprennent l'essentiel même de l'importance de soutenir cette merveilleuse émission que vous êtes en train de regarder et comment vous pouvez nous aider pour faire en sorte que l'émission perdure jusqu'à la fin de l'année. Merci.
Bon alors, je voulais vous parler de Baxit. Ça vous plaît Baxit ? C'est sympa, hein ? Alors justement, Baxit est une émission en direct, en plateau et en public, de 3 heures, avec des séquences, avec 2 invités par émission minimum, avec des before, etc. C'est une grosse logistique d'un point de vue prod, d'un point de vue technique et d'un point de vue éditorial. L'engagement de Baxit, l'engagement qu'on a pris lorsqu'on a créé cette émission, c'est qu'on va vous proposer la meilleure émission possible, la plus belle émission imaginable, celle que vraiment on rêve de vous produire, et qu'en plus on va le faire en payant tout le monde. Et donc c'est pour ça que Baxit est une émission qui coûte à produire 16 000 euros par émission. Et il faut rajouter à ça un engagement initial d'investissement pour lancer la saison, 25 000 euros, en gros, pour faire le desk, pour faire la musique, pour faire la direction artistique, etc. Donc ça, c'est des dépenses qu'on fait au début de l'année et qui ensuite tiennent pour toute la saison et il n'y a pas besoin de les refaire tous les mois. Ça peut paraître beaucoup. Pour des personnes qui travaillent dans le secteur de l'audiovisuel, c'est que dalle. 16 000 euros, une émission de 3 heures en direct, en plateau et en public. Je connais pas une seule boîte de prod à Paris qui est capable de sortir ça. Une émission à peu près similaire à la télévision, il faut rajouter un zéro à peu près. Donc, si vous faites 25 000 euros plus 16 000 euros par émission et que vous regardez le nombre d'émissions entre janvier et la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet, vous faites les calculs avec votre calculette pour regarder combien ça nous coûte jusqu'à la fin du mois de juin, on arrive à un total de 400 000 euros pour financer Baxit. À partir de là, les décisions qu'on a prises et qu'on maintient, c'est de demander principalement au public de financer cette émission pour que le public reste le financeur numéro 1 de l'émission. Donc je tiens à ce que Baxit soit d'abord financé par son public. Je tiens également à ce que le public de Baxit ne supporte pas seul le coût de l'ensemble de l'émission. L'objectif, c'est de faire 3/4 du financement par la communauté et 1/4 par du financement privé de type sponsor, before de Baxit, etc., placement produit, tout ça. Vous rajoutez à ça un financement public qui s'appelle le CNC, on va déposer une demande de financement au CNC, mais on n'a absolument aucune garantie de l'obtenir. On a lancé la campagne de financement participative au milieu du mois de décembre, pour une reprise de Baxit au début du mois de janvier. Clairement, c'était pas le meilleur moment pour lancer une campagne de financement participatif. Première chose que je tenais à vous dire, merci du fond du cœur, parce que vous avez été très nombreuses et très nombreux à participer au financement de Baxit. On est à 142 000 euros de financement participatif. Je veux que vous vous rendiez compte à quel point c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus que l'an dernier. L'an dernier, l'objectif, c'était 100 000 euros. On a réussi à récolter 100 000 euros en 6 semaines. Techniquement, on a fait mieux que l'an dernier, donc c'est déjà vachement bien. Le problème, c'est qu'en fait, l'objectif de 300 000 balles, c'est un objectif comptable à la fin de l'année. Le problème, c'est que la comptabilité ne tient pas compte de la trésorerie. La trésorerie, c'est dans un calendrier à quel moment l'argent est disponible. C'est pas pareil d'avoir de l'argent au fil de l'eau pour financer une émission que de l'avoir à la toute fin de l'année pour payer tout le monde avec 6 mois de retard. Ça vous permettait pas de voir concrètement où est-ce qu'on en est en termes de financement. Du coup, on a décidé de faire un changement, c'est qu'on va mettre des paliers dans cette campagne de financement participatif pour vous dire concrètement jusqu'où est-ce qu'on a assez d'argent pour aller. Maintenant, je vais vous indiquer jusqu'à quand est-ce qu'on peut aller en fonction de l'objectif qui est écrit au bout. Donc là, on est à 142 000 euros et on a besoin d'aller jusqu'à 158 000 pour pouvoir faire Baxit jusqu'au 16 mars. C'est on ne peut plus transparent, on ne peut plus clair, mais ça ne repose pas que sur vous. Il y a toujours la possibilité d'avoir des before. C'est-à-dire que si on arrive à faire un before sponsorisé et que le client nous paye à temps, alors ça va pouvoir nous payer des émissions d'avance. Si d'ici au 16 mars, on arrive à arriver à 158 000 euros, et ben on rajoutera 16 000 euros d'incrémentation supplémentaire pour aller à l'émission suivante, et ainsi de suite. Si un partenaire prend un before, ça décale le montant du financement. Ouais. L'autre truc qui est pratique avec Utip, qui est le partenaire avec qui on travaille, d'une part Utip nous aime bien, soutient Baxit et nous a fait un petit tarif, parce que vous savez, ils prennent une commission sur la levée totale. Donc ça déjà c'est cool de leur part et je remercie à nouveau les équipes de Utip. L'autre raison pour laquelle c'est chouette de bosser avec Utip, c'est parce que Utip a tout un tas d'outils différents. Utip est une plateforme sur laquelle on peut à la fois faire une campagne de financement initiale, cette fameuse campagne-là. On peut faire une campagne de financement au fil de l'eau et ils ont un shop intégré. Regardez le fonctionnement qu'on a décidé de mettre en place. Vous pouvez faire un don symbolique en dessous de 5 euros et vous aurez votre nom au générique de l'émission et tu auras notre reconnaissance éternelle. Donc merci à toutes les personnes qui font un don, même 1 euro, même 2 euros, même 4 euros. C'est un don très important, on vous en remercie et on veut pas que vous pensiez que parce qu'il faut 16 000 euros pour faire une émission, mon don n'a pas de valeur s'il n'est pas minimum de 100 balles, etc. Non, ce qui finance Baxit, ce ne sont pas les gros dons de 100 et 200 euros, ce sont une armée de petits dons. En nombre de vues uniques par émission, en comptant les replays, on est entre 150 000 et 300 000 vues par émission.
émission Backseat, ce qui est un très très beau score. Si toutes les personnes regardant Backseat donnaient 1 euro, on financerait l'émission. Exactement. Si chaque viewer qui regarde l'émission filait 1 euro, on pourrait financer toute la saison. Ensuite, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer la baisse du prix du Fire Tipper. C'est le nom que l'on donne aux personnes qui donnent minimum 5 euros. Si vous faites un don de 5 euros minimum, il y aura un tirage au sort pour aller dans le public. Vous avez accès au salon VIP du serveur Discord. Sur le serveur Discord de Backseat, il y a un salon réservé aux Fire Tipper. Ce salon vous permet d'avoir accès en avance à des informations sur, sur les prochaines émissions Backseat. Ça vous permet d'avoir le lien du replay de la dernière émission en avance. Comme vous le savez, Backseat est gratuit en live le jeudi soir sur ma chaîne. Pas besoin d'être donateur, pas besoin d'être abonné à ma chaîne, tout le monde peut regarder Backseat. À partir de la fin de l'émission, les Fire Tipper ont accès au replay intégral de l'émission. Pour les gens qui ne sont pas Fire Tipper, il faut attendre le dimanche midi pour avoir le replay intégral gratuit sur YouTube. Le don régulier, c'est un peu le don le plus intéressant pour nous, parce que ça nous permet d'avoir de la visibilité et donc de savoir combien d'émissions on pourra faire. C'est pour ça que Fire Tipper à 5 euros, c'est renouvelable tous les mois. Donc soit vous faites un don mensuel de 5 euros et vous êtes Fire Tipper jusqu'à la fin de la saison, soit vous faites un don ponctuel et si vous voulez rester Fire Tipper, il faudra le renouveler dans un mois. Et ensuite, pour faire des dons plus importants, on vous redirige vers le shop dans lequel vous pouvez acheter des produits. C'est dans le shop que se trouve la possibilité de soutenir Backseat en achetant des produits dérivés. Et je vous rappelle que dans le shop, vous avez la possibilité d'acheter des places pour venir dans le public à chaque émission. Vous pouvez acheter un mug, vous pouvez acheter un sweat imprimé, vous pouvez acheter un t-shirt imprimé. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que vous pourrez bientôt acheter un t-shirt brodé, une casquette brodée, ainsi qu'un sticker. Il y en a plein qui me l'avaient demandé le sticker. J'ai décidé que ça serait des collections limitées. Les t-shirts brodés serait en édition limitée. La vente s'arrêtera, je l'ai retirée du shop, si la réforme des retraites est adoptée et va jusqu'au bout. Si la loi de la réforme des retraites est votée, qu'elle passe le Conseil constitutionnel et qu'elle est ratifiée là par le président de la République, le t-shirt sera retiré de la boutique. Pour la casquette, on va faire à peu près pareil. La casquette Backseat brodée, si dans son avis, le Conseil constitutionnel ne censure pas le recours à l'article 47-1 pour réformer les retraites, la casquette ne sera plus disponible, elle sera plus jamais disponible. Hein. Je vous rappelle que le shop, nous notre métier c'est pas de vendre des t-shirts, hein. Le but du jeu pour nous c'est d'obtenir de l'argent pour financer Backseat. Si vous, ça vous permet d'avoir une contrepartie cool avec un t-shirt sympa, on est super content. Donc c'est pour ça que ça paraît cher, parce que sur un t-shirt qui est vendu 45 balles, il y a 25 euros qui vont à Backseat et 20 euros qui vont à la confection du t-shirt, à son expédition et au suivi, etc. J'en profite pour dire bonjour à YouTube. Sur YouTube, vous êtes très nombreux et très nombreux à regarder Backseat en replay. Les replays des émissions Backseat fonctionnent très bien sur YouTube. C'est une émission qui cartonne en replay. J'en suis très heureux. Pour les personnes en podcast aussi, si vous regardez cette vidéo récap des annonces sur Backseat sur YouTube, n'hésitez pas vous aussi à venir dans le lien dans la description sur youtube.io/JeanMassier pour vous aussi faire un don et participer au financement de Backseat. Merci YouTube. Est-ce que vous avez des questions? Comment tu gères le truc à partir du 16 mars s'il n'y a pas assez de sous, une émission tous les 15 jours? C'est une bonne question, je ne sais pas, on va pas se mentir, ça va pas être facile. Je suis pas là pour vous dire vous inquiétez pas, ça va le faire, non, parce que si on n'a pas assez d'argent pour financer, c'est une prise de risque trop importante pour toutes les personnes qui bossent, et moi je refuse de faire bosser des gens sans les payer et sans avoir la prévisibilité pour les payer. On verra en fonction des biforts qu'on a déjà signés si on estime que ça peut nous permettre de financer à l'avance, et voilà, super ces changements, en tout cas l'objectif me paraît plus concret et plus atteignable. Ouais moi j'en avais marre d'avoir la barre là qui allait jusqu'à 300 000 euros, c'était trop virtuel, parce qu'en fait ça nous emmène jusqu'au mois de juillet, t'es en mode mais en fait c'est pas atteignable, on se rend pas compte et tout. J'en profite pour rappeler que si vous connaissez une entreprise, une marque, etc. qui cherche faire du placement produit sur internet et tout, et que ça pourrait potentiellement fitter selon vous sur un bifort, bah, n'hésitez pas à leur en parler. Comment est-ce qu'on te contacte en privé pour info pour un bifort? Tu me contactes en envoyant un mail sur mon mail pro, pour les contacts pro, c'est pro@jeanmassier.fr. J'espère que vous y voyez plus clair sur les modalités de financement, comment aider Backseat, comment soutenir et tout. Merci pour votre soutien à Backseat, évidemment. Merci à toutes et à tous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.
Au Sénat ici. C'est quoi ce bordel? Bon, on n'en profiterait pas pour faire un petit point sur la thune, le nerf de la guerre, comme nous l'ont expliqué nos invités de ce soir. On en est où là du financement participatif? Mais on a des 157 000. Et donc, on doit atteindre 160 000, c'est ça, là, au moins, ce soir ? C'est l'objectif ? Allez, un petit point sur les contreparties au cas où vous auriez loupé quelque chose pendant la vidéo de présentation. Donc, vous pouvez participer à partir de 5 en dessous de 5 euros, oui, un euro symbolique si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez devenir Fire Tipper à partir de 5 boules. Dans ces cas-là, vous allez avoir accès directement au replay, vous n'aurez pas besoin d'attendre. Et puis, vous pouvez évidemment dépenser tout votre argent en goodies sur le magnifique Backseat Shop. Et franchement, ça vaut le coup. Je profite pour rappeler aussi pour celles et ceux qui nous regardent en replay sur YouTube que si chacun d'entre vous, je fais le calcul, c'est pas facile, dépense 5 euros, hein, c'est ça, voilà, si chacun et chacune d'entre vous dépense 5 euros pour nous soutenir, nous pouvons avoir suffisamment d'argent pour avoir des émissions jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est quand même pas mal finalement. 5 balles, bon, ça peut être bien dépensé. Nous allons maintenant accueillir notre cher Vincent pour son PowerPoint. Vincent ?
Vous allez bien ?
Salut Vincent.
Ça me fait plaisir de te voir dans ce siège.
Moi, ça me fait bizarre.
Ça me fait plaisir. Dans ce siège-là ou de te voir dans ce siège-là ?
Les deux. La perspective est un peu fucked up ce soir. Ouais. C'est cool, hein, je dis pas. Tu veux nous parler, toi, ce soir ?
Bah, moi, ce soir, en fait, cette semaine, j'ai pas beaucoup bossé, hein, je vais être honnête. Hein,
ça commence super bien.
J'ai fait des
TikTok. C'est bien pour que les gens donnent de l'argent pour justifier ton salaire.
Oui, mais attendez. Non, justement.
Nickel.
Ce soir, en fait, j'ai envie de vous prouver quand même que je travaille un peu et que, voilà, je bosse mes sujets. Il faut que je vous montre un petit peu comment un de mes outils pour travailler, c'est très simple et tout, mais un de mes outils que j'utilise vachement, donc, c'est c'est les alertes Google, très simple, très basique. J'ai mis des mots clés sur des thèmes, des mots particuliers ou certains noms de personnalités un petit peu, voilà, on va dire problématiques. Et d'habitude, j'ai des sujets assez variés. Hein, ça, c'est très 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 large. Mais cette semaine, dans mon mail influenceur, il y a un nom qui est inattendu, qui est revenu à plusieurs reprises. C'est celui de Louis Boyard, donc député LFI de 22 ans, que vous allez recevoir juste après en plateau.
Paraît-il.
Et vous le savez sûrement, donc en marge du mouvement de grève, Louis Boyard a invité les lycéens, les étudiants à bloquer leur fac ou leur lycée à travers le Blocus Challenge. Donc voici ce qu'il dit dans une vidéo qui est devenue vraiment virale avec plus de 14 millions de vues depuis.
Bon, le 7 mars, on fait quoi ?
Quoi couper ?
Non, ça c'est pas le sujet. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloquées contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. On se retrouve mardi pour faire reculer Macron.
Alors, bon, outre le fait que Kwakubé, moi j'en peux plus, hein, globalement, hein, moi j'ai retenu qu'il y avait à gagner une visite à l'Assemblée nationale.
Alors, ça, t'en rêves ?
Alors, justement, moi je pense, si je suis au lycée, là, aujourd'hui, je préférerais peut-être, je sais pas, une petite carte Dracofeu Shiny VMAX ou une petite PS5, quoi, pour me déconnecter un peu plus du réel, hein, comme disait je sais plus qui. Après, je dis ça, mais c'est vrai que en rêvé, je me dis, Jean, tu lui offres ça ?
Ouais.
C'est le plus beau jour de sa vie, quoi.
Mais est-ce un bon exemple ? Ouais. Est-il représentatif ?
Je pense
un peu,
pas sûr. Mais
à sa manière. On t'embrasse, hein.
Ouais, on t'embrasse. Mais lui, c'est Europa Park, l'Assemblée nationale. C'est,
il y a moyen, ouais.
C'est son pèlerinage à Lourdes. Tu l'emmènes là-bas, il est guéri instantanément. Enfin, je veux dire, il se lève.
On a trouvé la solution.
Ah ouais, on t'embrasse, hein, Jean, évidemment. Mais en tout cas, ça m'a interpellé. Et donc, j'ai cliqué sur les contenus qui parlaient de Louis Boyard, influenceur. Et j'ai pas été déçu du tout, évidemment. Parce que l'initiative du député, elle a divisé. Et certains lui ont reproché un peu de sortir de son rôle d'élu et de devenir influenceur. Donc, avide de likes, d'abonnés, etc. J'ai notamment pas mal phasé devant un édito de RTL qui le compare, je vous dis pas tout en détail, mais qui le compare à Jackass, à Trump, et qui fait un parallèle avec le jeu vidéo. Donc, il y a tout. Enfin, pour moi, c'était
un édito sous LSD, quoi.
Ouais, non, peut-être.
Peut-être.
Les médias. J'ai regardé ça amusé au début, puis je me suis dit qu'il y avait quand même une question intéressante derrière tout ça. Et aujourd'hui, la question que j'avais envie de me poser, c'est est-ce que les politiques ont le droit d'être des influenceurs ? Alors oui, je précise tout de suite, à droite, c'est Djebari. Je vais en reparler après, mais on le reconnaît peu parce qu'en envie de ma... Enfin bref, c'est un détail. Parce que c'est vrai qu'on s'est souvent demandé si les influenceurs pouvaient faire de la politique, mais on s'est rarement demandé l'inverse, est-ce que les politiques pouvaient faire de l'influence ? Alors évidemment, d'un point de vue purement linguistique, hein, y a pas de débat, hein, aux yeux du Larousse, des définitions, bah, les politiques, c'est des influenceurs, ça, il n'y a pas de mystère là-dessus. Ils ont un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique, voire sur les décideurs, donc c'est carré là-dessus. Voilà, les politiques correspondent à la définition d'un influenceur. Il n'y a pas de débat non plus sur les placements de produits, dans le sens où c'est vrai que quand on dit influenceur, on pense souvent placement de produits, arnaque, etc. Ah oui. Et les élus, les politiques, ils n'ont pas le droit d'en faire. En 2017, hein, je rappelle, François Ruffin avait dû retirer une partie de vidéo YouTube où il parlait d'un numéro de son journal Fakir. Il y avait Marlène Schiappa aussi qui en avait fait les frais en 2021 parce qu'elle avait été accusée d'avoir fait la promotion d'un salon de coiffure et d'un lissage brésilien aussi. La vidéo avait été supprimée. Enfin, c'était très flou, mais bon, les traces sur Internet sont encore là.
Et dans nos cœurs. Dans nos cœurs.
Et, bien sûr.
Surtout dans nos cœurs.
Et récemment, il y a le député RN Grégoire de Fournasse, vous connaissez pour d'autres raisons peut-être récemment. Il avait carrément fait la pub du vin qu'il produisait. Enfin, voilà, il fait un tweet. Je vous mets un petit lien, voilà. N'hésitez pas à acheter mon vin. Voilà.
Pépouze.
Voilà. En fait, le débat politique...
Attends, je t'interromps. 158K. Désolée, j'avais des consignes très précises.
Non, bien sûr. Je vais faire plus de blagues sur Jean et Lourdes.
Certainement.
En fait, je trouve que le fond, c'est le débat politique versus influenceur. Il tient surtout dans la vision que les élus français ont de leur propre stature, dans le sens où, traditionnellement, un élu, ça porte un costume, une cravate, ça parle avec un langage soutenu, parfois ronflant, ça va sur BFM TV plutôt que sur TikTok, et ça regarde la caméra au lieu de la tenir. Alors, bon, c'est vrai que ces dernières années, vous pouvez le voir là, j'ai mis deux exemples au hasard, hein. Les frontières se sont un peu brouillées entre ces deux mondes. D'ailleurs, c'est très bizarre que j'ai l'impression que Éric Zemmour regarde Gabriel. Enfin,
c'est drôle parce que les chiots avec Éric Zemmour, ça marche pas du tout. Hein.
Ça va me hanter encore une fois. Et donc voilà, vous pouvez le voir, il y a des exemples qui sont assez nombreux. Hein. C'est vraiment deux au hasard. Mais en fait, c'est simplement que pour toucher une audience qui leur échappe aujourd'hui, il y a plusieurs politiques qui ont dû s'adapter et commencer à faire appel à certains influenceurs. Donc, il y a Thibaut en forme, hein, comme j'aime bien l'appeler. Il y a McFly et Carlito qui sont allés faire un concours d'anecdotes avec le président qui lui-même est devenu youtubeur par la suite. Il y a Marlène Schiappa qui avait invité des influenceuses aussi. C'était à Beauvau. Elle l'a fait. encore une ref, non Ouais, allez. je l'ai. J'y fus, hein. Allez. Et Gabriel Attal, il avait aussi fait un live Twitch sur la jeunesse depuis l'Elysée. Il avait notamment invité Enjoy Phoenix ou Malek, qui est chroniqueur dans Backseat. Gabriel Attal, il a aussi fait beaucoup, beaucoup de lives Instagram. J'ai donné un exemple parce que forcément, là, je pense à Neo S1 en ce moment qui vivent une période vraiment, vraiment pas facile. Et puis, oublions pas non plus le multi-stream organisé par l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, où des personnes, des streamers, notamment toi, Léa et Usul, vous aviez participé à l'époque aussi.
On l'a fait. On l'a fait.
tu y fus, voilà. Mélenchon, c'est d'ailleurs le premier en fait créateur de contenu total, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il s'est emparé très vite, grâce à son équipe aussi, de YouTube, de Twitch, de TikTok... sans délaisser son phrasé, hein, mais il a vraiment adopté les codes, hein, de ces plateformes-là. Lui, Boyard, il s'inscrit parfaitement dans cette mouvance large chez LFI sur les réseaux sociaux, sauf que lui, en plus, il a 22 ans. Louis Boyard est un 2000.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, du coup?
Non, mais c'est vrai. C'est juste qu'en fait, c'est logique aussi qu'il aille sur TikTok, puisque ça fait partie de sa culture.
Plus que Jean-Luc?
Voilà.
On est
Et d'autres, par contre, ont poussé l'influençarisation, mon prof de linguistique me tuerait, de la politique encore plus loin. Je pense évidemment à Jean-Baptiste Djebari. Hein. Les images sont choisies vraiment exprès. Qui lui, il a vraiment enchaîné les challenges sans même essayer de trop les comprendre. Il surfait sur les références à Adult Swim sans même se dire mais ça fait référence à quoi, ce genre de choses. Et il m'angoisse pas mal, hein, je dois vous le dire. Et comme vous le remarquez, sa bio, c'est littéralement ministre de TikTok. Donc on est vraiment, c'est devenu l'influenceur total. Il est plus ministre, mais je veux dire, ça veut dire quelque chose quand même. Et là, c'est là que je me suis dit, en fait, la question, c'est pas de savoir si les politiques ont le droit d'être des influenceurs. Ils le sont déjà dans les faits, avec certains avec beaucoup de cynisme, hein, faut le dire. En revanche, on peut se demander quel est l'objectif profond derrière ce type de démarche, car mine de rien, bah, l'impact de la communication politique numérique sur le réel, elle est plutôt complexe à quantifier. Et difficile de jauger, par exemple, l'impact concret du Blocus Challenge, qui semble avoir rendu d'abord visible la figure de Louis Boyard dans les médias et sur le réseau, plutôt que le sujet derrière le challenge. Surtout qu'en plus, bah, la mobilisation jeune, c'était prévu plutôt ce jeudi, en fait. Donc c'est pour ça qu'aussi, on peut se poser la question. Et donc, pour conclure, un peu comme Adèle, hein, j'ai une question pour notre invité, que j'aimerais lui poser, juste au cas où, hein, je pose ça là. Est-ce que ça sert, à quoi ça sert, en fait, d'investir autant dans les réseaux sociaux, dans les codes, dans les trends, quand on fait de la politique en 2023? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose d'utile? Peut-être que vous aurez l'occasion d'en discuter avec lui. Voilà. Merci beaucoup.
Merci Vincent. Merci beaucoup Vincent. J'en profite pour dire effectivement qu'on a dépassé donc les 158 000 euros et que si on veut franchir le next palier, ce que je vous invite chaudement à faire ce soir, hein, on s'est fixé un objectif le prochain palier est fixé à 174 000 euros et comme on vous l'a dit, chaque palier permet de financer une émission. Donc si jamais on y arrive ce soir, c'est champagne. Ou pas, mais bon. Il y aura de la bière en tout cas, ça on peut vous le garantir. Hein. Et de la bonne bière. Hein. Non, c'est pas... On va désormais inviter donc notre invité politique, ça fait beaucoup d'invités, à rejoindre l'invitation du plateau. Et on a un jingle! Bonsoir, Louis Boyard, l'influenceur politique, le politico-influenceur. Comment on vous désigne ce
soir ?
Moi,
je suis un politique, un jeune politique, mais avant tout un jeune. Mais c'est le sens de la discussion, je pense qu'on va avoir tout de suite... je pense que c'est le sujet de la présence ici.
Ah non, c'est pas vous qui orientez les débats, hein. Vous allez peut-être être surpris, attention. Vous avez entendu parler de la malédiction Baxit ?
Non.
Non, vous pouvez rester, vous inquiétez pas. Peut-être pour vous présenter, Louis Boyard, vous étiez syndicaliste lycéen à l'Union Nationale Lycéenne, l'UNL, avant de devenir chroniqueur chez Cyril Hanouna, et vous êtes désormais député du Val-de-Marne à seulement 22 ans.
Ouais, c'est correct.
C'est un truc de ouf.
Ouais, même moi, je suis choqué.
Ah oui. Justement, parlons-en. Ça fait quoi d'être... du coup, vous êtes le plus jeune de l'Assemblée nationale, là, concrètement.
Je suis le deuxième plus jeune. Il y en a un autre qui est plus jeune, qui s'appelle Tematei Le Gaïc, qui est un député qui siège au groupe GDR, qui est un indépendantiste polynésien. Okay. Et d'ailleurs, je l'ai adoré parce qu'il avait fait, dans sa première interview, on lui avait demandé « Vous voulez que la Polynésie quitte la République ?» Il a répondu « Non, je veux que la République quitte la Polynésie. Okay. » C'est ce jour-là qu'a commencé une longue histoire d'amour entre lui et moi. Je l'adore, vraiment, Tematei ne change rien.
Et du coup, quel âge a-t-il ?
Il a 2 mois de moins que moi, donc là, il doit être sur ses 22 ans, lui aussi.
Ah, vous devez avoir un peu le seum, quand même, du coup.
Mais non, parce que j'étais trop content, parce qu'en fait, de base, la plus jeune, c'était Marion Maréchal Le Pen. Et donc, du coup, j'avais le seum. Du coup, non seulement, moi, j'étais content, parce qu'on a battu le record de Marion Maréchal, mais du coup, on a doublement battu, donc vraiment aller dans les limbes de l'histoire, là où est la place du Rassemblement National, de Reconquête et tout, donc on est tous les deux très contents.
Oui, bon, on peut en discuter, faire à suivre. L'avenir nous le dira, s'ils sont vraiment perdus dans les limbes de l'histoire. J'ai bien peur que non, malheureusement. Alors, on a vu votre petite vidéo là sur le Blocus Challenge.
Ouais.
Bon, moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire et mon opinion, on s'en tape ce soir. mais les chroniqueurs sont là pour vous challenger précisément sur ce joli Blocus Challenge. C'est comme ça qu'on mobilise la jeunesse en 2023 ?
L'histoire de tout ça, je pense qu'il faut commencer à reposer un peu de contexte. En fait,
c'est
bien recontextualisé. En fait, moi, j'ai commencé, j'étais dans un lycée qui s'appelle le lycée Georges Brassens dans le Val-de-Marne, qui était, on le surnommait le lycée maudit. C'était vraiment le lycée le plus pourri du Val-de-Marne. Pour vous raconter l'histoire, on était en dessous de l'aéroport d'Orly, donc on avait les avions juste au-dessus de nous, construits sur une ancienne sablière en zone inondable, donc le sol de la cour s'effondrait, le plafond s'effondrait sur nous, on avait des rats, on avait des serpents, des champignons, de la
tuberculose.
C'est les pros qui m'ont dit ça. Mais, on était à côté d'une décharge, on était à côté d'une zone Céveso. Enfin, je vous jure, on avait tout, quoi. Et en fait, il y a un moment, ils nous ont dit, vous inquiétez pas, il y a un truc que vous avez pas, c'est de l'amiante. Et là, bam! bam, il y a un bloc d'amiante qui tombe au milieu de la salle de classe. Donc du
nickel.
Donc du coup, on a fait des pétitions, on a fait des manifs et rien n'a changé. Et du coup, bah avec mes potes et les autres lycéens, on a bloqué le lycée pendant 3 à 4 mois avec les professeurs qui faisaient aussi un droit de retrait. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai compris que bah en fait, enfin, si j'aime, on peut faire tout ce qu'on veut, mais le seul langage qu'ils comprennent, le seul rapport de force, en tout cas l'un des seuls rapports de force qu'a la jeunesse, c'est le blocage des lycées et des universités. Et
est-ce que vous avez publié votre plus belle photo sur TikTok?
J'avais pas encore TikTok à l'époque, mais honnêtement, je l'aurais fait. mais on était fiers parce qu'en fait, quand, imaginez, vous avez 16, 17, 18 ans et vous réussissez à faire cracher 30 millions d'euros à la région Île-de-France et au département, parce qu'on a obtenu la reconstruction. Et du coup, moi, c'est un peu le fil rouge de tout mon engagement politique, c'est d'essayer de dire que la jeunesse, elle a une légitimité politique à s'engager, qu'elle a la légitimité de penser la politique, de faire de la politique, et à chaque fois que les politiques, on leur demande comment est-ce que les jeunes doivent se mobiliser, ils disent faites des manifestations.
Alors, pardon, je vous interromps parce que vous êtes pas en train de répondre à ma question.
Bah, je vais répondre.
C'est pas très satisfaisant du tout.
Presque. C'est que, en fait, il y a les jeunes qui ont organisé des grèves mondiales pour le climat, des dizaines de millions de personnes. Bah, on n'a pas vraiment été entendus. Et donc, du coup, en fait, nous, l'objectif, c'était de soutenir et de mettre en lumière les blocages de lycées et d'universités contre la réforme des retraites.
Donc, c'était pas pour les inciter, c'était plus pour les visibiliser.
Bah, en fait, c'était pour les soutenir aussi. Bah, c'était parce qu'on disait, bah, va y avoir des blocages contre la réforme des retraites qui étaient appelés pour ce mardi-là. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, on va montrer un soutien, on va relayer l'appel. Et en même temps aussi, bah, on va soutenir, en fait. Et on voulait aussi le faire d'une certaine manière parce que, bah, une mobilisation, ça, enfin, pour qu'elle soit populaire, elle doit aussi s'imprégner des codes qui sont les nôtres. Elle a le droit d'être joyeuse, elle a le droit d'être drôle. Et du coup, c'était l'objectif de ce blocage challenge qui, à la fois, remplit sa mission pour deux rôles. Premièrement, elle a beaucoup tourné. Donc, du coup, elle a informé du fait qu'il y avait des blocages de lycées et d'universités. Et surtout, elle a lancé une panique bourgeoise qui était délicieuse. Parce que les gens,
vite fait, parce qu'en vrai, le hashtag, il a surtout tourné sur les médias et les réseaux sociaux. Et des gens qui disaient que c'était peut-être pas très pertinent. Enfin, j'ai l'impression qu'on a plus vu de photos de Valérie Pécresse. Pardon.
Non, je disais, c'est surtout vous que ça a mis en lumière en vrai ce truc-là.
En soi, pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de. En fait, il y a eu des bons chiffres de mobilisation. Il y a des gens qui nous ont envoyé des photos. Il y a des gens qui n'ont pas envoyé de photos. Et honnêtement, moi, je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est que ça se mobilise derrière. Et en fait, on parlait beaucoup de ce que faisait l'intersyndicale, mais on parlait pas de ce que faisait l'interorga de jeunesse. Et donc, du coup, nous, l'objectif, c'était à la fois de montrer un soutien et puis derrière aussi de lancer un débat public parce qu'au fond, qu'est-ce qui les dérange? Il y a deux choses qui les dérangent. Premièrement, qu'on utilise des codes qui ne sont pas les leurs, c'est-à-dire les codes de la jeunesse qui sont les miens. J'utilise TikTok, je regarde TikTok. Enfin, je veux dire, c'est ma culture, quoi.
Quand vous dites ils, c'est qui?
Bah, c'est toute une partie de la classe politique et médiatique qui n'est pas en phase avec la culture et les codes de la jeunesse et aussi qui ne reconnaît pas la légitimité à se mobiliser. Et je le redis, mais on peut faire toutes les manifs qu'on veut. En fait, le seul langage qu'ils comprennent, c'est les blocages de lycée et d'université. Et je considérais que c'était mon rôle de justement soutenir les jeunes qui allaient le faire et de relayer cet appel à le faire. Et donc, ça a lancé le hashtag Blocus Challenge qui a lancé un débat public, quoi.
Mais il y en a qui ont eu un peu l'impression d'être pris pour des cons, en fait. Est-ce que vous comprenez que le message, il ait pu ne pas passer?
Il y a des personnes qui disaient oui, c'est infantilisé. Mais en fait, ce qui est infantilisant, c'est de croire qu'il y a des jeunes qui vont mobiliser uniquement pour une visite de l'Assemblée nationale.
Mais c'est pas infantilisant de dire que s'il n'y a pas de challenge TikTok, justement, les gens vont pas se mobiliser?
L'objectif, c'est des appels à bloquer les lycées et les universités, j'en ai fait plein. J'en ai fait un quand ils ont refusé le repas à 1€, j'en ai fait quand il fallait parler Parcoursup. Enfin, je veux dire, ça fait des mois.
Même modèle,
je l'ai fait dans un discours à l'Assemblée nationale, je l'ai fait partout, en expliquant justement qu'ils avaient raison de se mobiliser, parce qu'en ce moment, les jeunes, on les respecte pas, et tous ces éditorialistes de plateau n'en pensaient rien. Par contre, à partir du moment où on le fait sous forme d'un challenge TikTok, là, tout de suite, ça les intéresse et ça les indigne. Donc, c'est pas le seul format que j'ai utilisé. J'utilise tous les formats qui sont possibles. Et donc, du coup, on a lancé celui-là, moi, je suis très content, en fait, parce que ça a lancé un débat, parce que ça a informé, parce que ça a visibilisé, et aussi parce que derrière, les jeunes qui bloquaient les lycées et les universités, ils pouvaient savoir que derrière, il y avait des politiques qui leur reconnaissaient ce droit, cette légitimité, et qui seraient derrière eux pour les soutenir, ce qu'on a notamment fait pendant la mobilisation de mardi.
Et justement, sur la vision du paysage médiatique, je crois que Antoine avait une petite idée.
Ben pourquoi pas, oui. Je pense qu'en effet, c'est essentiel pour les partis politiques de pouvoir investir les réseaux sociaux, pour investir Internet en particulier, pour pouvoir toucher la jeune génération, parce que sur les 18-29 ans, c'est une courte majorité de cette catégorie d'âge qui utilise d'abord Internet et les réseaux sociaux pour s'informer en matière politique. Donc ça, évidemment que c'est essentiel pour les partis politiques d'aller sur ces formats-là. Néanmoins, on a l'impression qu'il y a une sorte d'évolution du contenu politique qui peut y avoir sur les réseaux sociaux. Enfin, par exemple, Mélenchon, qui est quand même un précurseur de l'utilisation d'Internet, de YouTube, entre la revue de la semaine qu'il lance en 2017, où c'est des vidéos qui durent 30 ou 40 minutes, où il peut vraiment aborder les sujets en profondeur et du coup pouvoir avoir une vraie pensée politique, et maintenant l'utilisation des nouveaux réseaux sociaux, où c'est le format TikTok très court, où c'est avec des références aussi qui sont pas politiques. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une dépolitisation du message politique avec cette évolution des différents formats qui sont disponibles sur les réseaux sociaux?
Non, je pense pas. Au contraire, je pense justement que, enfin, en fait, même c'est pas une question de politisation, parce que moi je crois que la jeunesse elle est ultra politisée.
Oui, non, bien sûr.
Parce qu'elle est ultra connectée, ultra informée.
Oui, clairement.
Maintenant, la question c'est comment est-ce que nous politiques on fait pour pouvoir aller s'adresser à un public à qui on n'a pas appris à se connecter aux institutions, parce que c'est bien ça le fond du problème. C'est que à l'école on a des cours d'EMC de temps en temps, mais je veux dire à 18 ans, quand on sort, on ne connaît pas l'histoire des courants politiques, la compétence du département, des régions. Et en fait, à 18 ans, il y a beaucoup de jeunes qui disent « Bah, moi, j'ai un avis, mais en fait, je ne connais pas et je ne me sens pas forcément légitime. » Et du coup, je considère que bah, moi, en tant que jeune député de 22 ans, mon job, c'est justement d'essayer de connecter l'institution dont je fais partie aux jeunes en utilisant des codes qui sont les miens. Parce qu'en vrai, je ne me force même pas. C'est des trucs que je regarde tous les jours, ils me font marrer, je les refais. Et donc, justement, en fait, c'est une nouvelle manière de faire. Et bien sûr, elle est à évoluer, elle est à construire. Il y a un débat sur le sujet. Et c'est trop bien d'avoir des débat sur ça. Mais j'essaye de poser des petites pierres comme ci, comme ça. Et justement, je me sens pas forcément compris, parce que vous voyez qu'il y a tout plein de gens qui disent influenceur, patati patata. Mais moi, je m'en fous, je veux pas être influenceur, je me fais pas de fric sur ça, c'est pas mon métier. Ce que je veux par contre, c'est essayer de porter des discours et des messages politiques en utilisant des codes qui sont les miens. Et c'est ça qui est pas compris.
C'est un enjeu d'incarnation donc ?
Incarnation, je sais pas, moi je cherche pas particulièrement à incarner, moi je suis dans mon truc en fait.
Enfin, ouais, par exemple... vous parlez du fait que quand même votre âge, votre style, votre façon de faire a un impact vraisemblablement.
Bah, ça a un impact et en même temps je le force pas, je reste moi-même. Enfin, je veux dire, quand
oui,
je,
bien sûr, mais
quand
je sais
par exemple, quand je sers pas, enfin, petit moment confidence, moi quand je sers pas la main au RN, je sais pas que ça va faire un tollé. C'est juste que ça me paraît être la base, on sert pas la main au RN. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que parfois quand j'arrive à l'Assemblée nationale, je fais des trucs et apparemment faut pas les faire. Et du coup, genre, ça crée des trucs et en fait à chaque fois, et c'est aussi ça où parce qu'il y a plein de gens qui arrêtent pas de dire le buzz, par exemple Hanouna le buzz, mais en fait à chaque fois qu'on a fait parler, on a toujours essayé de faire parler de sujets politiques. Blocus Challenge, essayer de faire parler de la légitimité et du droit des jeunes de se mobiliser. Hanouna, on a essayé de faire parler de concentration des médias. Poignée de main avec le Rassemblement National, du fait qu'il faut lutter contre l'institutionnalisation du Rassemblement National. Et du coup nous on essaie de mettre en avant des messages politiques avec des méthodes qui sont pas forcément communes, et donc du coup souvent c'est réduit à influenceurs buzz, alors qu'en vrai, je suis juste un type de 22 ans qui arrive à l'Assemblée nationale et qui essaie de convaincre d'autres jeunes qu'en fait, les institutions politiques, c'est un des meilleurs outils que peut avoir la jeunesse pour essayer de changer le monde.
Vous cherchez un peu le buzz quand même.
Bah franchement, pas toujours. Hein. Enfin, je veux dire, par exemple, Hanouna, je l'ai pas cherché. Poignée de main avec le RN, je l'ai pas cherché. Blocus
non,
Challenge,
oui,
je pensais pas que ça allait créer
bah,
tout
Blocus
ça.
Challenge, quand vous lancez un challenge sur TikTok, vous cherchez quand même que ça fasse des vues.
Bah moi, je m'attendais surtout à ce que ça fasse des vues auprès des gens à qui je veux parler, ouais. C'est-à-dire aux jeunes.
Mais je pensais pas être forcément le cas d'ailleurs.
Bah, je pense c'est pas, en vrai si, ça a grave tourné, il y a plein de jeunes qui m'en ont envoyé. Je vais pas dire que par contre la mobilisation c'est le Blocus Challenge qui a lancé la mob, hein, certainement pas. C'est pas moi qui me suis levé le matin pour aller bloquer mon lycée ou mon université, hein. C'est les jeunes qui font la mobilisation, pas moi. Mais par contre, sur derrière les gens à qui on veut parler, ça a permis de le faire parler à ceux à qui on veut en parler. Par contre, ce que j'avais pas prévu, c'était la panique bourgeoise derrière. C'est-à-dire CNews qui en parle pendant des heures, BFM TV qui met des éditorialistes, je sais même pas qui c'est, ils me connaissent même pas et ils en font un édito de 30 minutes. Et d'un autre côté, en soi, je m'en fiche. C'est pas eux que je veux parler. C'est pas eux.
Mais je pense que il y a une tension à l'heure actuelle dans le métier de représentant. Enfin, c'est pas un métier, mais dans la représentation politique, entre un impératif d'être proche de la population et en même temps une demande aussi d'avoir une certaine stature, d'avoir une certaine respectabilité dans la façon dont on se comporte. Et je pense que c'est cette ligne de crête qui est extrêmement difficile à trouver, notamment quand on essaye de communiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des formats qui sont particuliers, en particulier quand si tu utilises TikTok ou ce genre de choses. Et c'est ça qui crée aussi certains décalages par moment, dans le fait d'aller trop loin d'un côté ou de l'autre, d'être pas suffisamment proche, d'être trop proche, mais en perdant une certaine stature, et c'est ça qui est compliqué à l'heure actuelle.
Bah, bien sûr, c'est un équilibre à trouver, et d'un autre côté, j'ai pas une seule, parce que justement, on y réfléchit, enfin, d'un autre côté, on a la fonction, il y a l'institution, mais d'un autre côté aussi, l'Assemblée nationale, c'est les gens qui la composent, qui la font, et je suis aussi lucide sur le fait que, enfin, je veux dire, Éric Dupond-Moretti qui fait 3 bras d'honneur à l'Assemblée nationale, oh, quelques brèves, moi, ça a fait tout un week-end, je veux dire, moi, si j'avais fait ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'a fait Éric Dupond-Moretti, c'était terminé pour moi. Et donc d'un autre côté, on n'est pas, enfin je veux dire, parce que moi je suis aussi lucide sur ça, parce que moi je suis quelqu'un qui a 22 ans, on va attendre beaucoup plus de moi que je rentre dans un moule, que je rentre dans des codes, sauf que c'est pas ce que je veux faire, c'est pas pour ça que j'ai été élu, et en fait je serai pas moi-même. Et je pense que même les gens, ils attendent justement d'un jeune élu qui reste lui-même et qui soit du côté, qui soit, voilà, qui représente une culture dont justement on reproche qu'elle n'est pas représentée en politique. Donc parfois ça gêne, parfois on peut peut-être faire des conneries, mais ouais, on essaye et on changera pas.
Non, non, c'est intéressant. Vous parliez du fait que lorsque vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas forcément les codes, vous savez pas qu'il faut pas faire ça, et du coup ça bosse derrière, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a une difficulté à avoir 22 ans et être député aujourd'hui?
Ils sont un peu paternalistes, hein. Mais enfin, je veux dire, d'un autre côté, je sais très bien à qui je m'adresse, quoi. Enfin, c'est des gens qui votent contre le repas à 1 euro, donc c'est pas eux qui vont comprendre vraiment la jeunesse, la culture, les codes. Et d'un autre côté aussi, on est dans une lutte, on est dans un combat. Enfin, moi, tout mon engagement politique, c'est celui d'une lutte et d'un combat contre des politiques qui justement veulent pas servir les intérêts des jeunes. Donc, quand je rentre à l'intérieur, je sais très bien qu'ils vont pas être agréables avec moi, qu'ils vont pas être gentils, qu'ils vont pas être là pour me légitimer. Mais justement, ça permet de mettre de la contradiction. Et moi, je pense que la contradiction, la conflictualité, ça permet justement de révéler un sujet politique. Et donc, oui, ça crée forcément des frictions, mais on est là pour ça.
Oui, et puis d'autant plus qu'on parle toujours de problème de représentativité de l'Assemblée nationale, et quand on évoque ce sujet-là, on a toujours l'impression que c'est seulement en termes de genre ou c'est seulement en termes de classe sociale, mais il y a aussi des problématiques d'âge qui se posent, et donc d'avoir aussi une focalisation juste sur toi parce que t'es jeune, c'est aussi problématique, parce que c'est normal qu'on puisse avoir différentes catégories d'âge au sein de l'Assemblée nationale.
Mais pour moi, en fait, c'est même pas qu'une question d'âge, parce que c'est surtout une question d'être en phase avec les aspirations politiques. Parce que il y a quand même des aspirations politiques dans la jeunesse qui sont ultra ambitieuses en termes de, sur les questions du réchauffement climatique, sur les questions de la précarité, même sur les questions de féminisme, sur les questions de genre, sur les questions d'antiracisme. La jeunesse, elle apporte un regard qui est neuf, un nouveau souffle. Mais justement, on empêche cette barrière-là de passer. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous avez une jeune personne qui arrive et qui justement fait évoluer ce mouvement de pensée, directement c'est wokiste, instrumentalisé. Alors que non, en fait, il faut l'écouter. Ça existe, et c'est pas. Vous avez des personnes qui peuvent avoir 40, 50 ans, mais qui sont justement en phase avec ce mouvement de pensée qui s'opère dans la jeunesse.
Si je dis pas de bêtises, vous êtes depuis la fin de l'année dernière le responsable des interventions dans la jeunesse de LFI, c'est ça? On sait qu'il y a eu un certain décrochage avec les jeunes, avec l'affaire Quatennens, certaines interventions de Jean-Luc Mélenchon et tout. Comment vous l'avez perçu et comment justement vous comptez les raccrocher un peu ces jeunes par rapport à ça?
Nous, la position, enfin en fait, c'est même pas tant comment réussir à séduire le jeune. On s'en fout de ça. Enfin, je veux dire, nous, on.
Non, mais vous avez concrètement perdu des militants et militantes sur le terrain.
Ah, mais on a perdu. Chez les jeunes et même un petit peu partout. Hein.
Oui. C'est votre sujet, les jeunes.
Justement, nous, notre objectif, c'est plutôt justement, la France insoumise, on est un mouvement qui se veut être au service des gens qui mènent des combats. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes qui ont été élues alors qu'elles ont mené des combats. Enfin, je veux dire, par exemple, Rachel Keke, c'est typiquement ce que la France insoumise souhaite, c'est-à-dire avoir des personnes qui ont mené des luttes sociales, qui savent ce que c'est que de combattre et qu'on va envoyer ensuite derrière aller en soutenir d'autres. Parce que nous, on considère que la démocratie, elle se fait pas tous les 5 ans et qu'un mouvement social, ça aide à construire la démocratie. Et du coup, moi, mon rôle, mais avec beaucoup d'autres, c'est justement d'essayer d'aller apporter un soutien à toutes les mobilisations de la jeunesse. Et donc, du coup, mon rôle, c'est de suivre un petit peu tout ça et d'essayer de faire en sorte d'être un appui.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que justement le fait d'intégrer des institutions type l'Assemblée, d'être élu, etc., et avoir des mandats, ça ne contribue pas à une forme d'institutionnalisation du combat, effectivement, que vous êtes en train de souligner, et qui perd en fait de sa nature et qui perd aussi de son dynamisme? Parce que forcément, quand vous intégrez l'Assemblée nationale, vous êtes obligé de répondre à un certain nombre de codes, dans une certaine mesure, et en tout cas, vous inscrivez dans une démarche réformiste, en fait.
On nous reproche tout le temps de pas avoir les codes et de tout le temps être dans une démarche de combativité, de lutte.
Oui, mais néanmoins, vos outils, s'opposer. Ça reste les mêmes que les autres. En fait, c'est la loi, c'est le fait de voter, etc. Vous acceptez la démarche réformiste, en fait.
On est pour une révolution citoyenne. Enfin, je veux dire, nous, notre objectif, on est lucide. Hein, à l'Assemblée nationale, c'est pas comme ça qu'on réussira à faire l'écosocialisme. Ce dont on a besoin, par contre, c'est de convaincre des gens. Et l'Assemblée nationale, ça nous sert à ça. L'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Notre rôle, c'est d'exprimer la voix du peuple qui nous a élus. Et donc, du coup, on essaie de convaincre, de faire des interventions, de faire entendre nos lignes politiques pour essayer de reconvaincre derrière aussi de batailler à l'Assemblée nationale. nationale, hein, sur la réforme des retraites, on a tout fait pour les empêcher de la faire. Et puis enfin, notre objectif final, nous, c'est la 6e République. On est conscient qu'on est en train de participer à des institutions de la 5e République qui sont pourries de l'intérieur et que justement, il faut essayer de convaincre de faire une assemblée constituante avec des citoyennes et citoyens qui n'ont jamais été élus et qui écriront une nouvelle constitution. Mais justement, le fait qu'on soit là, c'est justement un symptôme d'une 5e République qui est mourante. Parce que nous, nous sommes des élus de la 5e République qui disons justement que nous ne voulons plus faire partie de cette 5e République et qu'il en faut une 6e. C'est ça, nous, la démarche que l'on veut avoir.
Je me permets juste d'insister, pardon, sur Katniss, parce que vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Le fait est que vous payez un peu ce que Jean-Luc Mélenchon a dit. Mais comment vous raccrochez encore une fois ces gens sur le terrain qui s'y retrouvent pas, en fait?
Et qui ont tendance quand même à souligner, en fait, l'incohérence du programme qui est profondément féministe, et j'étais la première à le dire, et aussi les actes, en fait. C'est-à-dire que quand Adrien Quatennens revient à l'Assemblée nationale alors qu'il est condamné pour violence conjugale et qu'il est applaudi par une partie du groupe, le message est quand même très violent, quoi.
En fait, il y a la question des violences sexistes et sexuelles en politique et même en général dans toute la société. Enfin, elles existent dans toute la société et du coup, elles existent dans nos mouvements politiques. Sauf que la justice, tout le monde est d'accord ici pour dire qu'elle est défaillante pour traiter des cas de violences sexistes et sexuelles. Du coup, la question, c'est quels outils les mouvements politiques ont pour pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et c'est ça le débat dans lequel s'est retrouvée la France insoumise. Alors à l'intérieur, vous avez eu tout. Vous avez eu de toutes les positions. Et c'était du débat de fond. C'était du débat de savoir si jamais une personne, elle doit être directement totalement exclue, de savoir si jamais il n'y a pas une question de réinsertion. Et en fait, tous ces débats-là nous ont empêchés de pouvoir gérer la situation rapidement parce qu'en fait, personne aujourd'hui dans la classe politique ne sait s'équiper d'outils corrects pour pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et personne à la France insoumise ne vous dira que la façon dont a été gérée l'affaire Quatennens est satisfaisante. Et donc, il y a des personnes qui
Jean-Luc Mélenchon a l'air satisfait.
Vous avez des personnes qui sont satisfaites de la façon dont ça a été géré, vous en avez d'autres qui ne sont pas satisfaites. En fait, on apprend en marchant. Et j'espère bien que si jamais ça se reproduit, et probablement que ça se reproduira, on sera capable de beaucoup mieux gérer la situation.
Ouais. Machin. C'était moi.
Moi, c'est sur un autre sujet, enfin, qui est proche quand même, hein. Mais sur celui de la conflictualité dont tu parlais, on a l'impression quand même qu'il y a eu une évolution dans la stratégie de la France insoumise entre 2017 et 2022, entre une stratégie, enfin, populisme au sens pas médiatique en parlant, mais tu as d'opposition entre le peuple et les élites à une stratégie d'union de la gauche qu'on a retrouvée au moment de l'ANUPS. Et justement, est-ce que vous n'êtes pas encore dans une stratégie de la conflictualité en étant à l'intérieur de l'ANUPS et comment composer avec des partis qui n'ont pas du tout la même vision des choses, qui pensent que, tu vois, les proches du Parti Socialiste d'Europe Écologie Les Verts, ils pensent que leurs députés devraient pouvoir faire des compromis dans certaines circonstances avec le gouvernement, même là sur la réforme des retraites, et ce n'est pas du tout le cas chez les proches de la France Insoumise. Donc comment faire pour un peu gérer ce paradoxe?
Premièrement, la stratégie qu'on a eue, ça a toujours été la stratégie de la conflictualité, parce que justement, la conflictualité, elle permet de révéler des contradictions dans un système que nous, on dénonce. Et on maintient cela. C'est utile, ça a fait ses preuves. Notre stratégie, ensuite, c'était celle de l'union populaire. C'était celle de rassembler plein d'actrices et d'acteurs des mouvements sociaux, en fait, de rassembler toutes les personnes qui étaient pour une politique écologique, démocratique, sociale, et derrière, d'en faire l'union populaire, ce qui nous a fait faire notre score à la présidentielle, et qui nous a permis, derrière, de faire la NUPES. Il faut être assez lucide sur le fait que la NUPES, elle a été faite grâce aux résultats de la présidentielle, et où les autres composantes de la NUPES ont justement compris qu'il fallait avoir une ligne politique de rupture. Et la NUPES, ce n'est pas qu'un accord électoral des législatives, c'est un programme partagé, c'est des idées qui sont partagées. Et donc forcément, on se cherche encore, on apprend à se connaître. Et d'ailleurs, on a des styles qui sont très très différents. Et c'est justement ça qui fait la force de la NUPES. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la NUPES, premier essai, première au premier tour des élections législatives. Et s'il n'y avait pas eu l'électorat macroniste qui s'abstenait lorsqu'on était face au Rassemblement National, probablement qu'on aurait eu la majorité. Donc ça, c'est un autre souci pour nous. Et donc du coup, la NUPES, à la fois, il faut qu'on apprenne à la construire petit à petit. En même temps, il faut que chacun garde son identité, mais il faut quand même garder un truc, quoi. Et moi, je le dis d'autant plus en disant que, en fait, nous, quand on est jeune, on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps des divisions de la gauche. Je veux dire, imaginez si jamais la NUPES s'éclate, ça veut dire qu'on perd toutes les prochaines échéances électorales. Vous avez dernière rénovation qui vous explique qu'il nous reste un peu plus de 700 jours. Je suis désolé, mais on n'a pas de temps de perdre la NUPES. service. Donc à la fois on doit apprendre et en même temps on doit aussi avoir conscience que c'est un outil qu'il faut vraiment pas casser. Et quand il y a des élus de la gauche qui appellent à un acte 2 de la NUPES, mais nous on est complètement pour. C'est un outil qui se construit au fur et à mesure. Mais un acte 2 de la NUPES, ça veut dire que on se remet d'accord sur le fait que on a un programme qui est partagé, on a un accord pour pouvoir participer ensemble aux élections, aux sénatoriales, aux européennes, et puis que derrière, on espère qu'on pourra gagner ensemble la présidentielle. C'est ça l'objectif de la NUPES.
Je me disais, quand on est député à 22 ans, c'est quoi la suite ?
Moi en fait, de base, j'étais en train d'arrêter mes études et mon plan c'était d'aller vendre des tacos. Et du coup ensuite je me suis présenté et honnêtement, je vous jure pour les personnes, il y en a dans le public, ils ont participé à la campagne, elle était désespérée cette campagne. Genre on n'y croyait pas quoi. Et donc du coup bah là aujourd'hui je me retrouve dans un truc où je sais pas quelle est la suite. Enfin genre je suis le premier à me poser des questions parce que je commence à 22 ans. Ouais. Vous imaginez si jamais je fais ça toute ma vie. Enfin genre je vais devenir un Gérard Larcher ou un truc comme ça quoi. Non mais je veux dire.
Non non gens, j'ai Jean-Luc Mélenchon.
Ah, bah
oui.
Non mais d'un autre côté en soi, moi mon objectif, enfin j'ai pas fait.
À moins que vous préfériez l'exemple de Gérard Larcher. Hein,
non mais
les bras m'en tombent.
Non mais enfin honnêtement j'en sais rien, je tire pas des plans sur la comète parce que au fond moi mon objectif.
Mais continuer en politique, vous envisagez votre carrière politique?
En fait je me pose la question parce que d'un autre côté j'ai du bol quoi. Enfin je veux dire je suis le premier à être étonné de la situation quoi. Donc j'ai envie de continuer et d'un autre côté justement j'ai pas envie de me déconnecter. Et donc, du coup, c'est une question que je me pose.
Mais ouais, justement, dans la perspective typiquement d'une 6e République, il y a quand même cette volonté de renouvellement récurrent de la classe politique. C'est quand même quelque chose de très, très fort. Et encore une fois, là, je dois quand même souligner l'incohérence entre la théorie et la pratique. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment faire carrière en politique? Genre, vous, dans 50 ans, est-ce qu'on vous réinvite sur le plateau de Backseat? Je sais pas si on sera encore là.
Bah, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais absolument rien. Mais après, moi, mon objectif, c'est la 6e République, la planification écologique et surtout la garantie jeune. C'est ça, mon combat. Et donc après, bah, pour moi, à partir du moment où le travail est fait, et notamment où il y a eu la 6e République, j'aurai aussi conscience que j'ai évolué dans un système qui est la 5e République et qu'il faut que je fasse gaffe, en fait. Il faut que je fasse gaffe à pas me déconnecter. D'ailleurs, si jamais je continue et que je suis déconnecté, tapez-moi, quoi.
Non, mais c'est une vraie question. J'en ai parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élus qui me disent c'est difficile de rester, sur le terrain, quoi, d'avoir une connexion réelle avec le monde, avec.
Moi, j'essaie justement de rester le plus connecté possible. Déjà, premièrement, enfin, je veux dire, j'ai gardé mes potes, je fais des trucs, je continue de mener ma vie à peu près normalement. Et puis ensuite, si jamais un jour je me retrouve dans une situation où tout le monde me dit casse-toi, j'espère que je me casserai, quoi. Voilà.
Pas comme Jean-Luc, du coup.
Non, parce que en vrai,
mais on l'embrasse, ça va, vrai, on déconne. Oh là là. Bon, ok, très bien. C'est assez intéressant ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Parce que vous avez lancé, moi j'étais surprise, vous avez lancé cet appel au blocus, blocus challenge. C'est ça?
Ouais, allons-y. Okay.
Hashtag, pardon.
Est-ce qu'on a un gagnant ou pas?
Je voulais poser la question. Je t'en prie, vas-y.
Est-ce qu'on a un gagnant du coup?
Ouais. Qui est l'heureux ou l'heureuse élue?
Première gagnante, Valérie Pécresse, pour son occupation de l'ENA à l'époque. Et il y aura vendredi, donc du coup demain soir, oui, il y aura un gagnant parce que au fond.
Du coup, c'est elle qui va visiter l'Assemblée nationale?
Je l'ai invitée à visiter l'Assemblée nationale. On verra si jamais elle accepte. Mais la véritable victoire, bien sûr, c'est le retrait de la réforme des retraites. Et en vrai, ça nous fait aussi plaisir de pouvoir inviter des lycéens ou des étudiants qui ont bloqué leur lycée ou leurs universités. Parce que aussi, justement, quand je disais on leur reconnaît cette légitimité, justement, par votre acte militant, vous avez toute votre place dans la maison du peuple. Et ça, c'est un message et un moment qui va nous faire plaisir.
Et est-ce que ceux qui n'ont pas bloqué sont aussi bienvenus?
Alors, bien sûr, vous pouvez envoyer un mail de demande à visiter l'Assemblée nationale. Nous, en général, en fait, on a des créneaux de visite. Et nous, en général, on essaie de faire visiter les écoles primaires ou les collèges de la circonscription. On fait les visites avec les enfants et c'est super chouette. Et là, du coup, on a justement trouvé un moyen de ne pas utiliser un créneau pour l'école primaire, mais on a trouvé un autre créneau en loose day qui marchera bien. Donc, du coup, voilà, bienvenue.
C'est bien.
J'ai une question blocus, justement. Ça marche très bien dans la jeunesse, mais mardi, l'idée, c'était de mettre la France à l'arrêt. Mmh. Et le fait est que ça n'a pas marché, a priori, factuellement. Comment vous allez faire pour, justement, que ce mouvement de blocage, il passe de la jeunesse à toute la France, en fait?
Franchement, c'est quand même un gros mouvement. Hein. C'est les plus grosses manifestations qu'on ait pu connues depuis les années 90.
Non, vraiment, on met pas ça en question.
Mais après, mettre la France à l'arrêt, ça se fait pas si facilement que ça. Ça prend son temps. Et d'ailleurs, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les syndicats qui se sont organisés par secteur. C'est-à-dire, mardi, vous avez les raffineurs qui se mettent en grève. Le mercredi, c'est les transports. Ensuite, c'est l'énergie. Et du coup, tout ça est en train de s'opérer. Et en fait, parce qu'il y a des secteurs stratégiques qui sont mis en grève, c'est en train de désorganiser toute l'économie. Parce que nous, on est bien conscients, Macron, il s'en fiche de savoir qu'il n'y a plus de RERD. Par contre, le patronat, ça l'intéresse. Et ouais. ils commencent à perdre des sous. Et à partir du moment où ils considéreront que ça leur commence à leur coûter trop cher, ils vont appeler Emmanuel Macron. Et puisqu'Emmanuel Macron n'écoute que le patronat, alors comme ça, il va céder. Donc, il y a déjà un rapport de force qui est en train de s'opérer dans l'obscurité, dans le silence. Mais là, il y a des choses qui sont très, très grosses qui sont en train de se jouer. C'est pour ça que nous, on est contents de la mobilisation. Mais bien sûr, il va falloir aller plus loin. Déjà, en espérant que les élus de la majorité et de LR prendront leurs responsabilités et ne voteront pas la réforme des retraites. Mais même si jamais ça devait être amené à être voté, après le CPE, on a gagné, même après que la loi a été votée. Donc, on ne s'arrêtera pas. Nous, en tout cas, à la France Insoumise, et je crois que les syndicats ont fait passer le message aussi, ils ne s'arrêteront pas que la loi soit votée ou pas. Et le patronat finira par appeler Macron et lui dire retire. Et on espère qu'il écoutera.
Mais, tout à l'heure, pardon, vas-y Antoine.
Mais justement, tu mentionnes les syndicats. Et il y a eu quand même plusieurs sorties de Laurent Berger ou Philippe Martinez pour insister sur le fait que c'était une mobilisation qui était sociale et pas une mobilisation politique. Bon, alors, on pourrait disserter sur cet aspect-là, mais le fait est que l'opposition qui s'exerce à l'Assemblée nationale semble un peu déconnectée de l'opposition qui s'organise dans la rue. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, enfin, peut-être une meilleure communication, c'est vraiment le terme de l'interview, entre le front syndical et le front politique à l'Assemblée nationale par rapport à cette réforme des retraites.
Au fond, enfin, je comprends pas du coup, genre, parce qu'on est unis dans la rue.
Mais en fait, est-ce que les syndicats ont l'air de reprocher à la France Insoumise notamment le fait de vouloir mettre la main sur la mobilisation dans la rue. Voilà, est-ce qu'il y a pas un problème justement de savoir qui doit organiser la lutte et est-ce que ça peut être vraiment complémentaire?
Ceux qui doivent organiser la lutte, la grève, ce sont les syndicats. Mmh. Et d'ailleurs, on n'aurait pas la prétention de le faire. Hein. Il en faut des compétences et une organisation pour l'avoir que seuls les syndicats possèdent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous n'appelons pour les journées de grève, on suit les syndicats, toujours. Moi-même, tous les appels que je lance, ce sont les appels qui ont été lancés par les organisations de jeunesse. Et nous, on est là en soutien. On va sur les piquets de grève et on a organisé une caisse de grève aussi, où on donne beaucoup aux grévistes. Donc nous, on essaie d'être en soutien. Après, il y a des moments, il peut y avoir des désaccords. Par exemple, entre les syndicats et nous, on n'était pas d'accord sur la question de l'article 7 à l'Assemblée nationale. Mais on ne regrette pas ce choix. Il ne fallait surtout pas aller à l'article 7. Et donc, d'un autre côté, c'est normal de pas toujours être d'accord. Et je trouve même que c'est sain. Ce serait très, très inquiétant si jamais l'intersyndicale était constamment d'accord avec la France Insoumise ou avec n'importe quel autre parti politique. C'est d'ailleurs justement ça, respecter la charte d'Amiens. Et on apprend des uns et on apprend des autres, on fait des erreurs. Et puis ensuite, à la fin, honnêtement, on est content de se retrouver en manif, quoi. Enfin, moi, quand je vois des camarades de la CGT, de la CFDT, de Sud, venir en manif, on vient pas se parler de l'article 7, quoi. On vient partager une merguez et puis on fait la lutte ensemble, quoi.
Petite question aussi, Louis Boyard, pour terminer cette interview, avant de passer au meilleur moment de l'émission qui est le quiz à la con, et que vous allez avoir le plaisir de partager avec nous. Cet après-midi, il y avait un rassemblement devant le parvis de la gare Salinzard, avec notamment des élus qui se sont présentés et qui ont été hués par les étudiants.
Ah ouais?
Vous non, mais justement, comment votre présence a été réceptionnée par ces étudiants?
Moi, étudiantes. Moi, j'ai bien aimé, c'était sympa.
Vous avez pas l'impression de taper l'incruste parfois, enfin. Ah, vraiment, désolé. Hein,
Non, ça dépend. En fait, vous avez des personnes qui considèrent que peut-être qu'il faut pas les élus. Puis vous en avez d'autres personnes qui considèrent que c'est très bien d'avoir des élus et d'avoir un soutien. Et encore une fois, il y a un débat et c'est chouette. Après, par exemple, moi pour y avoir été, vous aviez par exemple les étudiants des écoles d'architecture qui sont vraiment dans une galère immense. J'ai pu discuter avec les étudiantes et les étudiants d'archi et du coup après qu'ils m'expliquaient tout ça, j'ai pris le mégaphone et je leur ai expliqué qu'il allait avoir une délégation qui allaient être reçus à l'Assemblée nationale pour faire entendre leur sujet. Bon, les archis, ils étaient contents que les élus soient là. Les totos, ils étaient pas contents que les élus soient là. La manif, elle a quand même avancé et on se retrouvera pour la prochaine.
Merci beaucoup, Louis.
Merci Bouillard. À vous.
Merci pour cette interview. Et maintenant, le quiz à la con, le moment tant attendu de la soirée.
Je suis censé me barrer ou...
Ah non, vous pouvez vous de choisir, vous voulez rester ou pas? Il y a que 5 questions, ça
va être
assez vite.
Allez, on y va,
hein.
Ça va être marrant.
Ok, bon, c'est un quiz à la con spécial.
Attends, Léa, on a une question aussi.
Oui.
Sur la chorale.
Ah oui, vas-y, je t'en prie.
À ce qui paraît, les Insoumis ont lancé une chorale à l'Assemblée nationale.
Et je suis dans ce groupe. Est-ce que vous avez pas compris? Moi, je suis dans le groupe, je suis pas le truc, je vois qu'il y a des messages, donc apparemment, ils sont en train de lancer une chorale. J'ai vu que dans le groupe, ils avaient partagé une chanson, donc je demande
c'est quoi,
à
quoi la chanson?
Je sais même plus, j'ai pas lu, moi, je suis pas la chorale. Enfin, mais apparemment, il y a une chorale Insoumise, je suis dans le groupe, j'ai pas pris le temps de regarder, et honnêtement, j'attends de voir. Donc je me spoil pas, et j'ai hâte de voir les camarades chanter tous ensemble.
Mais ce sera sans vous, du coup.
Je chante mal.
Ça pourrait peut-être aider.
Peut-être on pourrait apprendre. Ouais, bon, je verrai. Bon, ouais. Franchement, je vais voir la première et après, peut-être je rejoindrai.
Ouais, vous nous inviterez au concert?
Ouais, carrément.
Cool.
Oh, on pourrait faire un concert et ensuite tous les dons vont à Backseat.
Ah, oh. C'est pas moi qui prends la décision. Hein. N'oubliez pas d'ailleurs de donner à Backseat. C'est votre dernière chance pendant ce quiz à la con. On en a quoi là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir le montant?
On était à plus de 159 000 pendant les...
Wouh! Allez, ouais. On dépasse les 160 au moins, les gens, s'il vous plaît. Ce serait fabuleux. Merci beaucoup. C'est parti. Un petit quiz à la con spécial lutte féministe. Vous êtes prêts?
Let's go.
Donc, il y a 5 questions. Hein. 5 questions, 4 réponses au choix. Moi, je perds toujours. Là, j'ai les réponses. Je suis trop saucée. Mais du coup, je peux pas jouer. C'est dommage. Enfin bon, bref. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, quelle initiative a réellement eu lieu? Tata. Faudrait un petit jingle. Ça manque. Un match de basket gratuit pour les femmes venant habillées en rose. Un bon pour gagner votre différence de salaire en chocolat. L'élection de Miss Ménagère avec une épreuve de nettoyage. Un labyrinthe en plein air menant à une cuisine. Donc, quelle initiative a réellement eu lieu?
Faut que les hommes arrêtent d'organiser le 8 mars. Hein. On est d'accord?
Ouais, je pense, ouais. Non, parce que là, c'est turbo gênant. C'est pépite sexiste, la turbo 1000. Hein. Alors, Louis Boyard, vous en pensez quoi?
Franchement, au début, je croyais qu'elles étaient toutes fausses parce que je connais pas le concept. Mais franchement, je dirais la C parce que je pense qu'une marque serait capable de faire ça.
La C, ok.
Moi, je dirais la A.
La A pour Antoine?
Pareil, la A.
Ok, que dit le chat? On a les résultats du chat. Que dit Jean? Jean Bastier, il a voté? J'ai pas vu, quelqu'un a vu ce qu'il a voté?
Je crois qu'il a pas voté, mais il a commenté. J'ai vu
ok, il y a encore, on est encore en vote. Moi, je vais quand même, je vais voter, même si j'ai la réponse, je m'en fous. Non, comme ça. Je vais voter une autre réponse que la bonne réponse. Non, du coup, ça donne trop d'indications. Ouais. Alors, le chat, qu'est-ce qu'il dit?
Ah, j'en dis c'est.
Ok, a priori, on est plutôt sur la réponse A. Eh bien, c'est la bonne réponse.
Je sais pas s'il faut être content.
Non. Mais est-ce que... Alors bon, bref. En 2017, un club de basketball normand... Ah, c'est en Normandie. Proposait des places gratuites pour un match à toute femme vêtue de rose. L'initiative a été dénoncée par l'association Oser le féminisme. L'idée de base était d'offrir le ticket à chaque femme accompagnée d'un homme. Donc, ah oui, quand même, merde. J'avais pas vu le fin de la phrase. La C est fausse. En 2017, à l'occasion de la semaine pour les droits des femmes, organisée du 6 au 10 mars par la mairie de Montélimar, vous savez où c'est Montélimar? C'est dans la Drôme, c'est charmant. Un atelier avait... C'est de là où vient le nougat. Voilà, je fais un peu mon fun fact. Hein, j'habitais à côté. Un atelier avait pour but d'apprendre à ces dames à fabriquer leurs propres produits ménagers. C'est trop bien.
T'as vu qu'il y a un patelin, je ne sais où, qui a inauguré un banc rouge?
Oui, tout
femmes.
À fait, pour lutter contre les violences.
Exactement. Mmh. On apprécie le geste.
Bon, allez, on va tenir encore les 4 autres questions. J'ai un peu un doute là. Vous avez pas envie de partir en courant, ça va? Non? Ok. Je vous assure, c'est mieux après. Lequel de ces collectifs féministes n'a jamais existé? Réponse A, les Fémilites. Réponse B, les Insoumuses. Réponse C, ne rigolez pas si vite, les Chiennes de Garde. Réponse D, les Gouines Rouges. Alors, d'après vous, Sacha?
Les Chiennes de Garde, moi, ça, je pense que ça existe. Je dirais les Insoumuses, ouais. Là, comme ça.
Oui, pareil, Insoumuses.
Et vous?
Je crois que ça peut exister, les Insoumuses. Moi, je dirais les Fémilites.
Pris en flag.
Eh bien, bravo. J'ai oublié d'attendre le chat. Eh bien, bravo, on ne sait pas qui encore, on mais bravo. Bravo, sincèrement, bravo. C'était une très, très belle victoire arrachée à ça de la fin. Non, non. Que dit le chat?
On sait pas.
On voit pas mal de A, je crois.
Qu'est-ce que c'est long, le vote du chat, c'est pire qu'une présidentielle, quoi. C'est...
pire qu'un dépouillement des votes au PS.
Je te jure, ouais. Alors, on va convoquer la commission de recollement. Ok, ils disent la B. Jean Massier aussi. Eh bien, j'ai la triste nouvelle de vous annoncer que vous avez une très mauvaise culture féministe pour celles et ceux qui disent la B.
Ah.
Parce qu'il s'agit des Insoumuses. Les Insoumuses étaient un collectif qui était notamment l'idée par l'actrice Delphine Seyrig dans les années 70. Et c'était un super collectif qui a fait plein de choses assez géniales. Et notamment qui s'est saisi de l'outil de la vidéo pour aller recueillir la parole des femmes. C'était assez novateur. Bon, bref, j'arrête de faire ma féministe planning. Donc, c'était effectivement la réponse A, bonne réponse. Okay. Les fémilites n'ont jamais existé.
Les fémilites.
Les chiennes de garde ont existé. Les Gouines Rouges aussi, qui étaient un mouvement radical féministe lesbien fondé en 1971. Et le groupe devient inactif à partir de 73. Voilà. Vous dire, les Chiennes de Garde, une association française créée en 99 par Florence Montrénaud et la romancière Isabelle Alonso. S'inscrivant dans la mouvance féministe, l'association défend les femmes contre les insultes sexistes, notamment dans l'espace public, les médias, la publicité. Voilà pour les infos. Et donc vous pouvez débarquer et dire que les Insoumises ont existé aux Insoumises.
Ok.
Voilà. Pour votre petite, petite culture perso et militante. Réponse 3. Non, question 3. Putain, c'est vachement plus compliqué d'animer le quiz à la con que de jouer, en fait. Hein. C'est ouf. Allez, c'est parti. Laquelle de ces propositions a réellement été faite par un collectif féministe pour lutter contre le sexisme dans l'espace ? L'espace. Voilà. Allez, c'est parti. Réponse A. Que l'ISS ait à son bord des serviettes hygiéniques adaptées à l'apesanteur. Qu'une étoile sur deux porte un nom de femme, que les combinaisons spatiales soient unisexes, construire une fusée en forme de vagin.
Moi, je pense la B, mais elle a été faite par un mec.
Vous, vous dites la B ?
Speechless.
C'est pas facile. Je rappelle bien que c'est laquelle de ces propositions qui a réellement été faite par un collectif féministe hein, pour lutter contre le sexisme dans l'espace.
Ah, c'est par un collectif féministe.
Ouais.
Ah, voilà,
ça change tout, mais trop tard.
Non.
Non. Non, allez-y. Allez, deuxième chance. Exceptionnelle, d'ailleurs. Hein.
Mais en vrai, moi, je me...
Vous avez un joker.
Un joker ?
Ouais.
Moi, je mets la A.
Ok. Ce serait quoi, des serviettes hygiéniques ?
Bah, je m'interroge, c'est pour ça que je fais cette réponse.
Non, mais parce que vous avez l'air au courant, donc c'est pour ça que je me permets de... Suffisamment pour choisir cette réponse, en tout cas. Sacha, allez, Sacha,
je dirais la C.
Faut que tu dises quelque chose.
La C, la C, la C.
Ok. Mm. Antoine, t'as l'air super inspiré aussi.
Ouais, non.
Cool. Que dit le chat ? Réponse A pour le chat. Eh bien, non ! C'était la réponse D. Dès la réponse D. Eh ben oui. Lassée par les fusées phalliques, un collectif féministe allemand. Alors, je vais pas le faire. Je peux pas le dire. Quelqu'un parle allemand ici ?
Ouais.
Non.
Ok, vas-y, s'il te plaît, Lisa, parce que moi, je vais me ridiculiser.
Verbraort Feminismus.
Ok.
En fait, c'est une question scientifique, à un moment aussi. C'est peut-être pas.
Bah, regarde.
Waouh.
Alors, la traduction de ce collectif, c'est qui a besoin du féminisme ? Point d'interrogation. Ok. A créé une fusée en forme de vulve afin de lutter pour l'égalité des sexes dans l'espace. Ce design serait aussi plus aérodynamique que les fusées traditionnelles. Bah ouais, pourquoi pas.
Elle a vraiment été construite ?
Ça a été proposé.
Oh.
C'était une proposition. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est plus confortable à l'intérieur ? Non mais parce que comme c'est... Non mais tout de suite là... Non mais vous avez pas vu la gueule du public, hein. Ils sont outrés quoi. Non mais je veux dire en termes pratiques quoi. Enfin, vous avez bien vu comment c'est fait, clairement pour la répartition des je sais pas des espaces qu'un truc comme ça. Enfin bon bref, c'est peut-être plus convivial. Non je sais pas.
Prochaine question, prochaine question, prochaine question.
Oui, donc on avait l'image. Ok, bon, on passe à la prochaine question, à la demande générale. Pourquoi la ville de Ville-aux-Dames est unique en France ? La ville est peuplée uniquement de femmes. Tous les monuments, rues et bâtiments ont des noms de femmes. Les maires, restes, du coup, de la ville ont toutes été des femmes. Des snipers sont placés à des endroits stratégiques de la ville et vous exécutent si vous sifflez une femme dans la rue.
Oh ah ouais.
Oh, ça me donne des idées, ça.
La radicalisation, j'ai quand même.
Alors, qu'en pensez-vous?
Moi, je dirais B.
Ouais, moi aussi.
Ouais, B aussi.
Ah ouais, fastoche, quoi. Genre, vous mouillez pas du tout.
Non.
Personne ne prend les snipers. Non, heureusement que je joue pas. Hein, parce que... vous avez peur de perdre, c'est ça? Louis Boyard, à 22 ans, député, vous avez peur de perdre?
Sur une question comme ça, oui.
Ah ouais. Que dit le chat? Si le chat a eu le temps d'aller au second tour de la présidentielle? Pas encore. Ils sont à fond sur la baie. Ok, bon, bah, c'est bien la baie, effectivement.
Attends, même la réponse, elle est chiante.
Je suis un peu déçue, j'avoue. C'est en Indre-et-Loire, à côté de Tours, abritant 5000 habitants, teux. Il s'agit de la seule commune française dont tous les noms de rues, de monuments et de bâtiments importants sont uniquement au nom de portent uniquement des noms de femmes. Le conseil municipal adopta cette originalité. Originalité, qui a écrit ça? Cette originalité. C'est pas moi qui ai fait le texte. Non. En 74, je sais pas si c'est original, militant. Quel était le but? 74, émergence d'un féminisme d'État. C'était du washing. Alors, le maire est par contre bien un homme et s'appelle Alain Bernard, qu'on embrasse, hein, bien sûr.
Alain Bernard.
Alain Bernard, en 74, il était déjà maire, il est encore aujourd'hui, il va falloir arrêter Bernard. Oh, wow. Bon, bref, posez-vous des questions sur votre avenir en politique. Cinquième question, vous êtes prêts et prêtes? Lequel de ces articles, titres d'articles est faux? Elisabeth II, sa force, c'est son mari. B, sa place est à la cuisine de la Tour d'Argent, la nouvelle chef étoilée du restaurant mythique. Ça, c'est possible. C, Elon Musk donne naissance à son sixième enfant. C'est aussi possible. D, deux femmes sortent seules dans l'espace, une première. C'est aussi possible.
Il y a un point à la fin du titre.
Alors, c'est pas Alain Bernard, pardon, c'est Alain Bénard. Parce que je vois que le chat, ça va l'empêcher de dormir. Si on
ah
dit.
Oui, Alain Bernard, c'est un nageur.
Ah oui, oui, bah oui, je vois bien qu'il y a une confusion. Hein, mais bon, si vous savez que c'est un nageur, pourquoi vous demandez si c'est le maire de la ville de je sais pas quoi, là? Bon.
Ça va bien se passer, Léa.
Oui. On y est presque. Monsieur le député, qu'en pensez-vous?
Moi, je dirais la D.
D, la réponse D. C'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot, ouais.
Sachant que c'est la
j'ai
dernière
plus,
réponse.
J'ai plus de joker,
hein.
De toute façon. Non,
là, c'est all-in. Hein.
La B, ça fait moins un titre d'article.
Ouais. Sacha?
Je dirais la B aussi. Je dirais la B aussi.
Ok. Que dit le chat? La D. Le chat dit la D.
Mais
okay.
Je crois que la D, c'est une vraie info. Je suis pas sûre.
Eh bien, effectivement, c'est bien la réponse B. Le faux titre d'article et sa place était à la cuisine de la Tour d'Argent, la nouvelle chef étoilée du restaurant mythique. Toutes les autres, néanmoins, sont vraies.
C'est-à-dire qu'il y a un média qui a titré « Elon Musk donne naissance à son sixième enfant
» Tout à fait. Et il s'agissait du média Futura.
Ah,
voilà. On balance hein, ce soir. Pour la A,
y a pas les
Gala. Non, il n'y a
c'est
pas le JDD. T'es déçu, hein?
Enfin, m'en assurer quand même.
Oui, vérifie quand même dans les archives. Et enfin, pour la D, c'était le Dauphiné. Voilà, le Dauphiné Libéré, un charmant journal local du Dauphiné, comme son nom l'indique. Je ne sais pas si vous voyez, c'est là où il y a le gratin dauphinois, tout ça. Non, mais c'est vrai en plus! Vous faites de ma gueule! C'est, voilà, c'est enfin, les Côtes du Rhône, quoi. Bien, merci pour tout. Merci Louis Boyard
merci.
Pour cette fabuleuse émission. J'espère que c'était cool.
Bah ouais, c'était
ça va,
cool.
C'était pas trop traumatisant le
si
quiz à la con.
Si je peux faire un autre quiz la prochaine fois. Bah là, c'était un enchaînement de titres pas ouf, quoi.
Je l'avoue que c'était pas ouf. Ouais. Est-ce que vous étiez préparé pour le quiz à la compte ce soir?
Non, pas du
tout. Genre en mode roue libre.
Ouais, totalement.
Et bah, bravo pour cette première.
Bah merci beaucoup.
C'était
merci.
Une jolie perf. Je pense que vous avez fait plus de points que moi toutes émissions réunies. Je dois bien vous tirer mon chapeau, du coup. Je dois l'avouer. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, un bon moment en dehors du quiz à la con.
Mais tout du long. Et en plus, je suis content parce que bah, dans ce que j'expliquais d'essayer de connecter les jeunes à la politique, Backseat, la philosophie de l'émission, c'est ça. Donc je suis... Enfin, pour moi, symboliquement, parce que du coup, j'avais beaucoup suivi le début de Backseat et tout. Et du coup, je suis trop content de passer ici. Je suis trop content de vous avoir vu. Je suis trop content de ce que vous faites. Donc voilà, merci.
Eh ben, nickel. On vous invite à rester encore un peu si vous voulez qu'on partage une bière
ensemble.
Après la même bière, hein, je précise. Mais en tout cas, vous... On se voit en after avec ce public fabuleux et je vous rappelle que vous pouvez acheter des places. Merci beaucoup Louis Boyard.
Merci beaucoup.
Et bravo Léa quand même.
Ah, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de partir.
Mais non, il y a la bière après.
Ouais, ah oui, mais pas sur le plateau du coup.
Ah, c'est le moment.
Parce que du coup, on va parler de vous. Mais donc, si vous êtes là, ben.
Je me sors une bière, je me mets dans le public.
Ça, ouais. Ce sera moins douloureux comme ça. Alors, on se fixe un petit challenge là quand même. Il manque quoi? Moins de 500 balles pour arriver à 160K avant la fin de l'émission. Je vous propose qu'on n'arrête pas l'émission tant qu'on n'a pas atteint.
Bah non.
Le prochain palier de 174.
Il y a 481 balles à mettre là. À go.
Bah ouais, go. Mais je sais pas, moi j'ai pas ma carte. Bon alors, cette émission.
Bah bravo à toi.
Ouais, bravo. Pardon.
Bah non, merci. Je fais de mon mieux, j'avoue. J'étais très stressée. C'est une grosse responsabilité que Jean m'a mise sur les épaules. Mais je suis assez contente d'avoir eu cette opportunité. Ah,
c'était vraiment très bien.
C'était marrant et puis c'était chouette de voir aussi ce qu'il peut ressentir pendant les émissions.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, quoi.
On t'a saoulé.
Non, ah ouais, grave. Je suis là.
T'en pouvais plus.
Je suis là, mais vas-y, ces questions, elles sont cons. Non, c'est vraiment. Non, je crois que c'est intéressant. Peut-être qu'on devrait tous le faire au moins une fois pour comprendre un peu.
Non.
Ce qui. Bon, non, bof.
Ce que j'en vis, quoi, parce que c'est compliqué.
On met Usul la prochaine fois.
C'est certainement une bonne idée. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand Jean parle du fait que c'est difficile là aussi d'arriver à intégrer le chat. Bah là, je comprends totalement, quoi. Parce que j'ai pas pris une seule question du chat, typiquement.
Ça va vite,
alors que moi, normalement, sur mon live, mon stream, normalement, j'ai genre 4 personnes. Du coup, je... Si je suis là, bah, je peux vous poser les questions si vous voulez. Et là, c'est pas la même, hein, j'avoue. C'est tout à fait, hein, une autre dimension. Vous, ça a été cette émission?
Super.
Ouais, c'était super. Ouais.
Un peu speed, mais super. Bah, c'est tout le temps speed, en fait.
C'est-à-dire?
Bah, on aurait aimé avoir plus de temps pour parler d'actu, pour l'interview. Comme d'hab, quoi. Ça passe vite.
Ça passe très vite et pourtant, on passe quand même beaucoup de temps, en réalité. Enfin,
on s'amuse.
Qu'est-ce qu'en a pensé le public? C'était long?
Bah ouais. Hein.
Distille avec des mines dépitées.
C'était pas assez long. Genre pas assez long, genre on n'a pas atteint 160K. C'est ce qui me semblait.
Il manque 323 €. J'ai fait S pour info. Hein.
Ah bah bravo. Bah, ça m'étonne pas, tu vois. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a quelqu'un qui veut revenir en plateau. Imaginez qui c'est. À votre avis. Attends, on va voir. D'après vous, c'est qui? Qui veut revenir en plateau? Ouais. Bravo. Allez, Adèle, viens. T'as pris ta carte bleue?
Elle veut tout le temps revenir en plateau.
T'as pris ta carte bleue?
Ouais.
Ah,
absolument,
cool.
C'est bon, c'est réglé. Bon, il reste combien? 300, combien?
Faut demander à la matheuse.
Oh là là, il reste 221.
On va y arriver.
T'as eu ta réponse sur la chorale.
Ouais, merci d'avoir posé la question. Il avait l'air très surpris, c'était très drôle. Vraiment, genre, c'est quoi ce...
Il avait pas l'air chaud du tout.
Mais pourtant, il était... Vous avez vu les images quand
il... Ah bah oui,
il était
158,
là.
Ouais. Non,
c'était marrant parce qu'il a dit « je chante faux ». Et on l'avait entendu.
on l'a pas contrarié là-dessus.
Non, on était là, j'avoue, c'est pas...
T'es là, bon, on est d'accord. Pour une fois, on est d'accord.
Il faut un prof de chant dans la chorale, ça va peut-être du bien. Ah ouais. Armand Altaï, tu sais.
Bah, c'est peut-être ce qui est prévu.
Ok, Léa, il reste 78 balles, là.
Ah, ils sont chiants.
Non, vraiment, il reste 78 balles.
Bon, bah, on enchaîne jusqu'à 174.
Léa, je voudrais savoir comment tu te sens.
On y est,
comment tu t'es sentie, cette première émission?
Bah bien, merci. Au début, j'avais peur, j'avoue. J'étais un peu genre... J'étais là, putain, il y a Jean qui va m'envoyer des textos. Mais non, ça va.
Est-ce que tu vas continuer à l'empoisonner chaque semaine, du coup?
Ouais.
on va lui incuber le Covid.
C'est ça, ouais.
Toutes les semaines.
Tu sais le brownie que j'ai fait la semaine dernière. Ben voilà. Fallait pas le manger. Et toi, t'as passé une bonne émission?
Excellente.
Ouais. Ouais.
Non, c'était très chouette, vraiment.
Allez, on y est. Allez.
T'étais fixé l'objectif et bam,
bam.
Ouais.
Bah ouais, comme ça. Ah, je suis une winneuse, hein. Y a pas de
chien. Elle est émue.
J'ai une question pour toi, Sacha.
Oula, oh putain.
Pourquoi c'est 26 centimes?
Demande au chat, je sais pas. Moi, quand j'ai donné, j'ai pas mis 26 centimes. Hein.
T'as donné, toi?
Bah bien sûr.
Ah, moi, j'avais donné l'année dernière. J'ai pas donné encore.
Mais tu donnes beaucoup de ta personne.
Oui, ça, ouf. Et comment? Non, mais oui, effectivement, je peux peut-être faire un don. Si quelqu'un a ma carte bleue, non, personne, heureusement.
Bah, c'est quoi? Tu mets 74 centimes, comme ça, on a un chiffre rond.
Ouais, parce que ça me stresse un peu, là, j'avoue. Je sais pas, ça perturbe personne dans le chat?
Si.
Oui, bah, merci. Mais personne ne veut arrondir ce... Ouais, mais il y a un truc, un message codé? Non? Personne veut nous expliquer? Je vais devenir complotiste dans 3 minutes.
Mais peut-être qu'ils veulent partir sur la prochaine étape. Tu sais, peut-être qu'ils veulent pas que l'émission s'arrête du tout sur la genre. On part sur la 74 000 ce soir.
Je sens assez chaud là. Non, mais allez-y. Hein. D'ailleurs, par ailleurs, vous pouvez continuer à donner même si on a arrêté l'émission. Hein. C'est quand même... je préfère rappeler quand même parce que sinon, compliqué de.
Bon, par contre, mettez 74 centimes, je vous en supplie, on va pas être bien toute la soirée.
Il y a Louis Boyard qui nous attend Pitié. Avec la bière, quoi.
Pitié.
J'avoue. C'est peut-être le coût de la bière de Louis Boyard, ceci dit. Peut-être que quelqu'un a mis 26 centimes en se disant « je paye une bière à Louis Boyard ». Ah oui, vous pouvez le voir comme ça. Si vous voulez payer une bière à Louis Boyard ce soir, donnez dans... Financez l'émission. Bon, va falloir que ça s'arrête, parce que sinon, Jean va vraiment se dire « ils ont braqué l'émission, ça devient nimp ». C'est pire qu'un coup d'État. Des bisous, merci. Merci Jean pour ta confiance. Ouais.